On en jase, ton émission du midi sur les ondes de Boulevard 102.1. Il est présentement presque midi 2. 418-971-1021 pour interagir avec nous. On va encore une fois traiter de sujets d'actualité qui vont vous intéresser. Le Groenland, la conférence à Davos. Mark Carney fait un discours, je l'ai écouté en entier. Très revendicateur contre les États-Unis, très patriotique.
C'est la rupture de l'ordre mondial.
Exactement. Non, mais c'était vraiment un bon discours. Puis honnêtement, ça pourrait marquer une nouvelle tangente au Canada. Donc évidemment, on va en parler avec Antonine Iaccarini dans le caucus. On va également parler avec Luc Laliberté dans l'émission parce que ça fait un an que Donald Trump est arrivé à Maison-Blanche. Juste un an, vous allez me dire. Êtes-vous étourdis, les filles, comme ça faisait 10 ans qu'il est là?
Depuis la troisième semaine, oui. Ouais, ça avait commencé, en fait.
La une du Libération, cette semaine, c'est un an ressenti un siècle.
Ah!
Bien dit.
C'est tellement bien résumé.
Oui, c'est très, très bien résumé. On va parler de ça. On va parler également de musique francophone dans le Vieux-Québec avec Michel Mas, le président du conseil de quartier du Vieux-Québec, puis également du manque de résidents là-bas. Et Rémi Villemur va être avec nous. Hey, ils ont annulé une conférence à l'Université d'Ottawa sur les animaux, parce qu'on avait parlé des animaux qui sont binaires, donc qui sont soit masculins ou féminins.
Oh, le plus grand soupir que je pouvais pas faire.
Très heureuse de retrouver Rémi Villemur.
C'est ça. Donc.
Je parle vraiment de la personne.
Ben oui, oui, peut-être que.
Les animaux binaires, non binaires.
Ouais. Mais, excusez, puis je veux pas. Tu sais, vous en parlerez avec Rémi, là.
Oui, oui, mais non, mais vas-y quand même, t'as le droit à ton opinion.
Quand t'es outré et heurté par une conférence sur des animaux et leur genre,
ouais.
Je pense que tu peux pas aller à l'université.
Non,
je pense
c'est
qu'il faut
ça.
Que tu restes chez toi, puis que tu sois à l'abri de tout.
Ouais.
Parce que vraiment, ça atteint des sommets.
Exactement.
Bon, je connais pas les détails, c'est ma première
réaction. Ouais, ben c'est ça, exactement. Rémi va nous expliquer les détails de tout cela. Il y a une chronique également, excellente chronique de Joseph Facal dans le Journal de Québec, Journal de Montréal. Mais moi, j'ai appris qu'il y avait certains loups là, qui avaient demandé la transition de genre, selon moi.
C'est vrai, oui, puis on les respecte. Moi, je suis très inclusive avec les loups.
Moi aussi. Les loups, les écureuils.
J'adore ma job, ça a toujours été une passion. Je suis passionnée par ce que je fais depuis que je suis toute petite, l'actualité me tient debout. C'était le fun d'être sur un voilier, là.
Ouais. Ah oui, hein?
Tu te vois-tu là? Es-tu dans ton happy place, présentement?
BLVD.fm, c'est là que vous allez retrouver les meilleurs moments, dont le caucus, dont la chronique de Rémi Villemur, et ça inclut la web radio également pour nous écouter. L'application Boulevard aussi pour nous suivre. BLVD101 sur App Store, Google Play Store. Avec votre haut-parleur intelligent, vous dites « Écoutez BLVD ». Twitch.tv/BLVD/FM. Vous pouvez interagir là aussi dans le chat. On va toujours regarder vos commentaires également. Et abonnez-vous à notre page YouTube parce que vous retrouvez plusieurs moments, notamment le Pit Stop où Denis a fait une petite envolée justement contre la musique francophone. On s'est pogné à matin. Moi, je suis pas d'accord avec Denis Gravel, puis on va en parler tantôt avec Michel Mas, président du comité du citoyen. Mais moi, on est dans le Vieux-Québec. On est à Québec. On est le berceau de l'Amérique française. Faut que la musique joue en français. Quand je vais au Mexique, comme Yannick Marceau disait, puis je suis d'accord avec lui, je veux de la musique mexicaine. Quand je vais en Jamaïque, comme Antonine me disait tantôt, je veux « No woman, no cry ». Fait que c'est ça. Moi, je suis pour cette initiative.
Mais non, les Américains, là, ils viennent ici, il ne faut pas trop qu'ils soient dépaysés.
Ouais, c'est ça.
Il faut qu'ils écoutent du Taylor Swift dans la boutique.
Ouais.
Qu'ils mangent du McDo.
Ouais, je suis certain qu'ils viennent pour ça.
Ils viennent pour ça.
Ah non, ils viennent pas pour notre gastronomie.
Mais non, exceptionnel. On a plein de restos avec des étoiles Michelin.
Exactement.
Puis ils viennent pas découvrir une autre culture. Ouais. Ben non.
Pendant que Pascal CV va nous faire les trois principales manchettes dans l'actualité, je prends les présences. 418-971-1021, faites juste écrire votre nom. Dites, on est présent, on est avec vous, on veut savoir qui est là. Pascal, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité présentement?
Plusieurs choses, mais on va en reparler. Tu parlais de Mark Carney, c'est sûr qu'on passe pas à côté parce qu'il a évoqué la rupture de l'ordre mondial. Des mots importants, des mots qui ont été assurément choisis, pesés, calculés, mais ce sont les mots utilisés devant le Forum économique de Davos. Alors, le premier ministre canadien qui a parlé de tout cela et des manières dont le Canada devra s'adapter à un point tournant pour le monde. Et c'est un discours qui était suivi par plusieurs personnes. On a indiqué qu'on parlait de la réalité brutale où la géopolitique des grandes puissances était soumise à aucune contrainte et ça se voit dans bien des comportements, dans bien des discussions. bon, on en parle depuis un an. Là, on est pas mal rendu dans le fait d'en jaser mondialement et d'attirer les regards là-dessus. Hein. L'actualité internationale n'a jamais été aussi intéressante depuis plusieurs années que maintenant pour les gens dans leur quotidien. On va en jaser tantôt avec Antonine, assurément. Un corps repêché dans le fleuve à Québec, c'est le conjoint de Susanna Rocha Cruz qui est accusé de meurtre au deuxième degré. Donc, Susanna Rocha Cruz, qui a bel et bien été victime d'un homicide, ça, c'est d'après la police de Québec. Alors, on a confirmé qu'on avait repêché dans le fleuve Saint-Laurent la semaine dernière un corps, et c'était effectivement le sien. Son conjoint, c'est Abraham Gonzalez León. Il a comparu aujourd'hui pour meurtre au deuxième degré. Alors, autopsie réalisée, on en conclut que c'est bien et bien Mme Susanna Rocha Cruz qui a été retrouvée. C'est suite au corps qu'on avait repêché près du Quai 22 à Québec en début d'après-midi, ce jour-là. Donc, la dépouille qui était difficilement identifiable, c'est toujours le cas dans ce genre de dossier-là, hein, l'eau et tout ça. La police a d'ailleurs confirmé que cette femme de 44 ans aurait été victime d'un homicide. Alors, on va plus loin. Et Abraham Gonzalez León a été arrêté pour voie de fait causant des lésions la semaine dernière. Il était de retour au palais de justice aujourd'hui. Il a 43 ans. Nouveau chef d'accusation de meurtre au deuxième degré. Je le répète, donc il était présent physiquement dans le box des accusés d'origine mexicaine. Il est demeuré impassible. C'est toujours intéressant d'avoir un peu des détails dans ça. Il a juste hoché la tête pendant qu'on expliquait avec un interprète judiciaire son dossier. Ça a été reporté au 9 mars prochain.
Très triste comme nouvelle. Donc, nos pensées sont avec la famille, nos sympathies à la famille. Ça va être un moment très difficile à passer. Alors, on est avec eux.
Ici à Québec, ben, on parle de RTC, du réseau de transport de la capitale. Il y a une chute des déplacements, on le sait. Mm-hmm. Bon, ce qu'on dit, c'est un signal qu'on doit prendre au sérieux, mais ce qu'on dit, c'est du côté de l'opposition officielle. Donc, on est à l'heure, oui, des bilans, mais aussi de se pencher sur tout ce qui est transport en commun ici, surtout qu'on planche sur le méga projet de tramway. Notre collègue Mathias est du côté de l'hôtel de ville. Hein. Il y a conseil de ville aujourd'hui, alors il y a certainement des choses qui vont ressortir de ça.
Exactement, c'est clair. Et Mathias Turcotte qui va être justement dans le retour de Denis aux alentours de 15h15 pour faire un résumé. C'est fou comment les syndicats ont pris en otage les sociétés de transport cette année. Quand je pense au RTC et à la STM, ça a occasionné des baisses d'achalandage, des baisses de revenus. Et là, ce qui se passe au massif de la petite rivière Saint-François,
ouais,
où on va complètement anéantir pour une année une région. Je comprends là, qu'il y ait des syndicats, je comprends qu'ils soient là pour représenter les travailleurs et s'assurer qu'il n'y ait pas là, justement il y a pas d'exagération de la part des employeurs. Mais là, ce qui est fait dans la dernière année, c'est, je trouve quand même qu'on vient dépasser énormément les limites. On passe au caucus.
Le caucus. Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Non, mais c'est-tu bon, ça?
C'est très bon.
Hein? Merci à Tommy encore une fois. Merci beaucoup. Les filles, crème, je dois vous dire, vous attirez l'auditoire masculine.
Pardon?
Ah oui, dans les présences que j'ai prises,
Il y a juste des gars?
Ben, 90 % des hommes, bon. 10 % des femmes.
Bon, on y va avec l'ensemble de l'équipe, ouais, là. Je veux dire, on te laisse pas bredouille, là, t'attires aussi l'auditoire.
Il va falloir que je continue à aller au gym.
Non, mais c'est ça le bonheur de la radio, c'est que c'est notre voix, donc ben, merci, oui. Ils sont pas superficiels, les auditeurs.
Non, pas du tout. Antonine, une élection partielle qui va être déclenchée, c'est ce que je comprends?
Oui, donc on déclenche enfin cette élection partielle dans Chicoutimi. C'est à la suite du départ d'André Laforêt. Bon, on dirait que ça fait 250 ans. Ça n'a pas de bon sens comme il se passe des choses. André Laforêt, qui était ministre pendant très longtemps des Affaires municipales, député de Chicoutimi, qui a quitté cet automne pour tenter sa chance à la mairie de Saguenay, ce qui s'est soldé par un échec. Hein. C'est M. Bourassa-Vin qui a gagné l'élection dans Chicoutimi. Donc, on s'est
dit André Laforêt. Et elle avait une très grande longueur d'avance dans les sondages. Elle s'est fait rattraper par Luc Boivin. Elle était à 20 % d'avance à la mi-campagne.
Oui, mais il faut quand même comprendre les dynamiques là, à Saguenay. Je ne vais pas vous faire un cours sur comment fonctionnent les différents districts, mais ça a l'air que si tu n'as pas le monde de la baie, puis que tu as le Chicoutimi Nord, puis que okay, je ne sais pas quoi. Là. Mais moi, les gens du Saguenay me disaient qu'ils n'étaient pas très surpris, finalement, que Mme Laforêt n'avait pas gagné. Il faut dire aussi que la CAQ, c'est dans les sondages, la popularité, pas une marque qui était très, très populaire.
Globalement au Québec.
Globalement au Québec. Fait que là, quand vient le temps de se présenter à un autre palier de gouvernement, ça peut avoir un impact aussi sur les candidatures. Donc, comme d'habitude, la CAQ a niaisé le plus longtemps possible affaire de déclencher.
Ben, c'est parce que du côté de François Legault, il souhaitait. Mais non, mais c'est vrai, tu sais, ça va avec la stratégie de François Legault qui disait là, j'y vais all-in à l'automne, les syndicats, les médecins. Puis quand je vais tout avoir réglé ça, le monde dire on revient à la maison, puis je vais regagner Chicoutimi.
Ben, c'est ça. T'sais, on voulait essayer de remonter un peu dans les sondages avant de déclencher cette élection partielle. Parce que là, il faut le dire, là, dans ce présent mandat, il y en a eu plusieurs élections partielles, le PQ les a toutes gagnées.
Oui.
Sauf le départ de Dominique Anglade à Montréal, CQS, qui est allé chercher une circonscription, la circonscription de Dominique Anglade. Mais sinon, c'est le PQ qui va les chercher.
Ben, depuis Jean Talon 2023.
Moi, j'ai l'impression que sinon, c'est pas dans la même ère politique.
Non, c'est ça.
Ouais, encore une fois, ça fait 250 ans qu'André Laforêt est parti. Dominique Anglade, ça fait 2000 ans à peu près.
Ben, t'as nommé Dominique Anglade, j'ai dit, ah, moi, il y avait une partielle. T'sais, fait que tu vois comment je m'en souvenais plus.
Ben, puis il y a des auditeurs, des fois, qui me le disent, parce que je dis que le PQ a gagné toutes les élections partielles, mais les gens sont comme, c'est Saint-Anne. Ben oui, vous avez bien raison.
Saint-Anne.
Donc, le premier ministre avait 6 mois. En fait, il faut, dans les 6 mois, que tu déclenches une élection partielle pour remplacer un député, sauf s'il y a des élections générales qui s'en viennent dans les mois suivants. On se doute de l'issue, parce que le PQ est très populaire dans la région. Le PQ est premier dans les sondages et très populaire sur la scène nationale, mais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une région qui a toujours été, disons, très, très bleue. Par contre, c'est quand même intéressant de suivre ces élections partielles-là. Même si, tu sais, dans Terrebonne aussi, on se doutait bien que le PQ allait la gagner. Arthabasca, ça avait été un petit peu plus relevé à cause d'Éric Duhem. Mais il faut quand même les observer, ces élections partielles-là, parce que c'est des coups de sonde avant la campagne électorale. Et là, ce qui va être bizarre, c'est qu'il y a une course à la chefferie en même temps que cette élection partielle. Mm-hmm. Donc, comment est-ce que M. Legault va beaucoup s'impliquer? Est-ce qu'on veut garder un bras de distance puisqu'on est sûr qu'on va la perdre puis on ne veut pas trop s'associer à une défaite puis avoir l'air d'avoir mis plein d'efforts puis que finalement ça se solde en échec? J'ai hâte de voir.
Bien, justement, c'est ma question pour toi parce que tu as travaillé dans les organisations politiques. Je fais quoi si je suis un candidat de la CAQ, et là, j'en nommerai pas en particulier, qui s'est annoncé pour la course à la chefferie? Je m'en vais me coller à ce candidat-là, puis là, j'essaye de faire augmenter le pourcentage de vote parce que ça va être bon après ça devant les militants pour dire « Hey, regardez ce que j'ai réussi à faire » ou je me tiens loin parce qu'anyway, c'est une défaite puis je veux pas avoir une défaite à ma première course.
C'est le dilemme absolu parce que, rappelez-vous ce qui s'est passé dans l'élection partielle de Terrebonne QS, qui n'avait aucune chance de gagner. Ils sont pas allés faire campagne.
Hey, ils l'ont laissé tomber bien raide, la
candidate.
Et là,
vraiment, il y a eu un effet boomerang contre Huba Gazal, la porte-parole féminine, parce que la candidate a dénoncé. En fait, c'est drôle, hein, cette histoire-là, c'est moi qui l'ai sortie, parce que le soir de l'élection... Mais ça fait plaisir, mais personne ne le sait, fait que là, je vous le dis.
Vante-toi un peu.
Je vais me vanter un peu. Je suis allée dans Terrebonne le soir de l'élection partielle et j'ai fait le tour des différents rassemblements, puis je voulais jaser avec les militants un peu, puis voir l'ambiance, etc. Puis quand je suis arrivée au rassemblement de la candidate de QS, il n'y avait personne, il n'y avait aucun député qui était là, même pas un petit député, là, juste pour dire.
Personne de son équipe la plus vieille, finalement, était
en soutien,
du moins.
Il y avait sa famille qui était là, puis ça finissait pas mal là. Fait que le lendemain, j'étais dans une radio à Montréal, puis j'ai dit, sérieusement, j'ai été choquée parce que tu trouves des candidats qui portent ta bannière, qui font campagne, hey, c'est pas facile, puis là, tu vas vouloir recruter pour la prochaine campagne électorale. Comment tu vas faire pour trouver des candidats dans des circonscriptions qui sont plus dures à prendre? Donc, je pense que ça va avoir fait réfléchir pas mal de monde et j'ai l'impression que les candidats à la chefferie vont vouloir quand même aller épauler le candidat. Je dois aussi souligner la différence entre... Je vais faire la comparaison avec l'élection partielle dans Terrebonne. La CAQ avait présenté Alex Gagné, un jeune de 27 ans. Puis il y avait eu des gens dans les médias qui avaient un peu ri de la candidature puis dit ben il concède déjà, il présente un petit jeune qui n'a jamais rien fait. Attention, Alex Gagné, c'est pas un petit jeune qui n'avait jamais rien fait. Oui, il est jeune, mais c'est quelqu'un qui avait un beau profil. Dans Arthabasca aussi, la CAQ a présenté un bon candidat dans la
personne. Avec Kevin Brassard.
Et là, dans le cas de Chicoutimi, on présente quelqu'un qui s'appelle Francis Tremblay. Je ne le connais pas. Qui est étudiant à la maîtrise. J'attends de voir son CV, mais je ne le comparerai pas avec un Alex Gagné. Alex Gagné, pour votre information, ancien candidat dans Terrebonne, il travaille au gouvernement depuis qu'il a perdu son élection dans Terrebonne, et je n'entends que des bons commentaires. C'est une étoile montante. Il travaille au cabinet de l'économie de l'énergie et j'entends que des bonnes choses sur lui. Donc, ça me semble quelqu'un d'extrêmement compétent. Monsieur Tremblay, je ne le connais pas. On m'a dit que c'était tout un personnage, alors j'ai très hâte qu'on le reçoive en entrevue.
Tout ce qu'on sait, c'est un étudiant à la maîtrise en sciences politiques.
C'est tout ce qu'on sait pour l'instant.
Donc, encore...
Mais peut-être qu'il a fait des choses, là. On va l'apprendre à le connaître. On va attendre un petit peu d'en savoir davantage. Mais c'est sûr que de présenter un étudiant à la maîtrise... Tu sais, je me dis, il n'y a pas un staffer de la CAQ
qui est bien impliqué, qui est pris un genre de... Tu sais, anciennement, Samuel Poulain en Beauce, qui avait donc bien travaillé en background
pour essayer d'être... Il était attaché de presse, puis il est devenu député maintenant. Il est maintenant ministre.
C'est ça.
Mais j'ai hâte de voir. Mais c'est sûr que le feeling qu'on a, c'est du côté de la CAQ qu'on n'essaye même pas.
On ne veut pas brûler personne, puis on n'essaie pas.
Avec cette candidature-là. C'était Nadia Poirier, la candidate de Québec solidaire. Elle travaille maintenant pour le PQ, soit
exactement.
Dit en passant, dans l'équipe de Catherine Gentilcoeur, qui a gagné l'élection partielle de Terrebonne.
Je pense que Rubah Gazal doit regretter de ne pas être allé faire un petit tour dans Terrebonne.
PQ, bonne candidate dans Chicoutimi, selon moi. Puis on a aussi annoncé une candidature aujourd'hui, mais une candidature qu'on sait pas trop où. Là. C'est brouillon, cette affaire-là. Parle-moi de ça.
C'est drôle parce qu'aujourd'hui, on annonce qu'il va y avoir l'élection partielle qui va avoir lieu le 23 février. Mais le PQ sort en conférence de presse mais pour nous présenter une candidature pour l'élection générale. Ça fait longtemps que le PQ avait annoncé sa candidate dans Chicoutimi. Elle s'appelle Marie-Carline Laflamme. C'était la vice-rectrice de l'UQAC. Mais là, du côté du chef du PQ, ça se passait à Montréal ce matin, on présente Sandra Hernandez. Elle travaille à l'ONU quand même. Ce que je comprends, je trouve le timing est un petit peu bizarre, mais ce que je comprends, c'est que même si on ne sait pas où est-ce qu'on va la présenter, on a le goût de mettre de l'avant des gens qui ont une certaine crédibilité peut-être pour montrer du professionnalisme, pour montrer qu'on est capable de recruter une équipe qui va faire un conseil des ministres.
Et est-ce que ça fait suite aux critiques qui ont été abondantes après la conférence de presse de Paul Saint-Pierre Plamondon vendredi dernier, où là, il s'est débattu comme un diable dans l'eau bénite pour dire non, ça passe par la souveraineté, même si les États-Unis pourraient nous envahir. Est-ce que c'est une réponse à ça, d'aller chercher une candidate de l'ONU, ou là, c'est moi qui essaye de faire trop de liens?
Peut-être. Je pense qu'il est conscient qu'en ce moment, la politique internationale et ce qui se passe avec les États-Unis prend beaucoup de place et qu'effectivement, on essaie de mettre en opposition la souveraineté et l'intérêt national et la protection qu'on essaie d'avoir contre les États-Unis dans ce nouvel ordre mondial dont parlait Pascal tantôt là, pendant les manchettes. Mais en même temps, est-ce que de démontrer une candidature qui a une expérience sur la scène internationale? Parce que je veux quand même dire que Pascal Paradis, notre député de Jean Talon à Québec aussi, là, il a une expérience internationale.
Il était avocat.
Il est porte-parole en la matière.
Oui, il était avocat pour...
Avocat sans frontières,
c'est ça.
Il a travaillé dans le milieu minier sur la scène internationale. Donc, tu sais, c'était pas un besoin si criant que ça, mais je pense qu'on veut envoyer un message de crédibilité et montrer qu'on a déjà commencé à recruter pour une équipe. Parce qu'il faut le rappeler, le PQ, c'est 6 députés. C'est toute petite équipe. Et la question de la souveraineté peut créer de l'anxiété chez les gens et les empêcher de voter pour le PQ. Donc, peut-être, je pense que c'est comme ça qu'on pourrait interpréter cette annonce-là un petit peu bizarre là, aujourd'hui. Puis j'ajoute que c'est quand même une candidature féminine et que c'est extrêmement difficile de recruter des femmes en politique. Donc, chapeau.
Bien, en effet, il y en a deux grandes qui sont parties, là, Geneviève Guilbeault et Sonia Lebel. Puis quand je regardais les commentaires sous la publication de Geneviève Guilbeault, je comprends pourquoi c'est dur recruter des femmes. Messieurs les misogynes, là, vous pouvez rester à la maison là, puis arrêter d'écrire sur les médias sociaux, s'il vous plaît.
Merci.
Faites en sorte que notre société soit encore saine d'esprit. Rapido, il se passe tout de quoi avec la course à la chefferie à la CAQ?
Bien, juste vous dire qu'on attend impatiemment les règles de course à la chefferie. Je pense que les candidats à la direction potentielle aussi, parce que évidemment, il y a personne qui se déclare présentement, qui annonce sa candidature, ne sachant pas exactement ça va être quoi les paramètres de la course à la chefferie. On avait une Christine Fréchette qui semble travailler très, très fort en coulisses. Moi, je pensais qu'elle allait annoncer assez rapidement, mais là, finalement, on attend.
Pourquoi,
parce qu'on ne sait pas les règles. Donc, c'est un peu bizarre. Puis, elle s'est fait critiquer aussi que le corps n'était pas tout à fait refroidi avant de commencer. Donc, on attend ces règles-là. Puis, ça met les ministres dans une drôle de situation parce qu'on sait qu'ils vont devoir démissionner de leur poste de ministre pour se lancer dans cette course à la chefferie-là. Mais en attendant, là, mettons, ces jours-ci. Là,
qui s'occupe des dossiers.
Ben, c'est parce que c'est ça. Là. On le sait bien là, que le focus n'est pas nécessairement le plus optimal. Puis on va avoir après ça plusieurs ministres qui vont peut-être, selon le nombre de personnes qui vont se lancer, démissionner. On a un premier ministre qui est un peu, en tout respect, un lame duck, un canard boiteux, comme on dit. C'est quelqu'un qui est encore en poste, mais qui n'a plus beaucoup de légitimité. Mm-hmm. Donc, on a aussi un article de Bloomberg la semaine passée, quotidien, pas quotidien, mais médias financiers, qui disait qu'il y avait de l'inquiétude entourant l'instabilité politique au Québec pour les agences de notation. Bon, ça peut avoir l'air loin de nous, mais c'est très proche mm-hmm. de nous quand vient le temps d'emprunter de l'argent puis des taux d'intérêt. Donc, ça a un impact aussi sur notre portefeuille. Donc, il me semble le plus vite possible, ça va être clarifié, le mieux.
Leurs équipes continuent de travailler, par exemple, puis peuvent continuer de travailler dans les dossiers, mais sans, mettons, chef d'orchestre, c'est beaucoup plus complexe?
Bien, sans ministre, oui, c'est plus compliqué. Sans, avec un petit manque de légitimité aussi, là, tu sais, veut pas, là.
Les troupes doivent pas être au plus fort, ben, là, au plus motivé.
Puis attendez-vous, il y a des staffs qui étaient dans des cabinets qui vont démissionner de leur travail et qui vont aller faire campagne.
Ben oui, c'est clair.
Donc là, si t'avais, toi, un dossier, là, mettons, là, que tu veux avoir de l'électricité d'Hydro-Québec, toi, pour ton usine de je sais pas quoi, OK? Ben là, tu dealais avec un attaché politique au cabinet, t'avais une rencontre avec la ministre. Là, tu te demandes, là, mon dossier, on se pensait quoi avec mm-hmm. ce dossier-là? Ça va être qui le ministre la semaine prochaine? Donc, en termes de productivité et d'avancement des dossiers, c'est un peu ordinaire. Puis rappelons qu'il y a eu un remaniement ministériel cet automne avec un paquet de changements de ministres. Donc, tout ça fait en sorte là, qu'à la fin de l'année, là, ça va être quoi là, le niveau d'avancement de tous les dossiers?
En effet, puis ça a été très au ralenti cet été, justement, parce que François Legault avait eu la bonne idée d'annoncer son remaniement 3 mois à l'avance.
Allemand, on était focus dans le cabinet, là, ça travaillait fort.
C'est une autre bonne idée de notre ancien premier ministre. On se transporte à Davos. On écoute Emmanuel Macron au sujet de Donald Trump. C'est en anglais parce qu'il s'exprime en anglais devant le panel, justement, à Davos, au sommet économique. C'est vraiment une coupure, une cassure qu'Emmanuel Macron vient de parler, où il dit qu'on ne fera pas affaire avec des gens qui utilisent la brutalité, donc la violence. Vraiment, l'Union européenne est en train complètement de se tourner contre les États-Unis.
Le Groenland, c'est comme un éveil en ce moment, hein, parce que bon, le Groenland, c'est un territoire qui appartient au Danemark. Le Danemark fait partie de l'OTAN. Et là, tu as un autre membre de l'OTAN et même le bateau amiral, là, les États-Unis, qui mettent à menacer l'intégrité territoriale, en fait, d'un membre de l'OTAN. Donc, c'est vraiment une situation qui est très, très étrange. Moi, j'étais, je vais vous le dire, là, l'année passée, quand M. Trump est arrivé en poste pour son deuxième mandat et qu'il a commencé à faire des, je le mets entre guillemets, blagues sur le 51e État, ça n'a jamais été de blague en passant, j'étais fâchée que les pays européens ne disent rien.
En effet.
Le silence assourdissant de l'Angleterre, notamment, de la France, qui sont nos deux anciennes patries dans l'histoire de notre pays, les deux peuples fondateurs. Personne ne disait rien, là. Puis, tu sais, les Britanniques étaient particulièrement, excusez-moi, lèche-botte avec M. Trump.
Bien, tout le monde était lèche-botte avec M. Trump. Tu sais, on arrive à un an pendant les 9 premiers mois, là.
Mais je dois dire que je trouve pas que M. Carney a été lèche-botte. Peut-être qu'il n'est pas aussi virulent qu'il l'était en campagne. Mm-hmm. Mais je l'ai jamais... Si tu compares avec Keir Starmer, là, le premier ministre britannique, là, c'est vraiment moins gênant. Okay? Puis je suis pas toujours en train de lancer des fleurs à M. Carney, là, mais là-dessus, je dois dire que j'ai trouvé qu'il s'est tenu debout. Très calme. Il ne faut pas non plus poke the bear. Il ne faut pas provoquer M. Trump pour rien. Mais je l'ai jamais entendu faire le lèche-botte avec M. Trump.
Mais je pense qu'il connaissait son terrain de jeu. Ouais. En se disant, si je vais là, je comprends que j'ai l'air peut-être un peu plus mou, mais je réveille pas la bête, comme tu as dit.
Oui. J'ai jamais trouvé qu'il avait l'air mou. Moi, je vais être bien honnête. Je trouve qu'il livre pas nécessairement tout ce qu'on nous a promis en campagne. On nous a mis ça gros, elbows up, machin, machin. Mais je le trouve assez ferme et calme. Ça, je dois le saluer. Puis, je veux dire qu'on va envoyer des soldats au Groenland, c'est quand même gros. Là. Pensez-y.
Oui.
On a de la misère à faire les nôtres pour le Nord et l'Antarctique et tout ça. Là.
Absolument. Puis, on a compté sur les États-Unis pendant tellement longtemps parce qu'on avait un partenariat qui était tellement solide. On est dans un nouveau monde. Puis, les pays évoluent pas. On peut dénoncer le sous-financement de notre armée dans les dernières décennies, autant par les conservateurs que les libéraux. En passant, tout n'est pas la faute de Justin Trudeau. Là, Stephen Harper avait coupé aussi dans le militaire, dans la défense.
Parce que c'était pas populaire. Il allait pas se faire réélire.
Exact. Il faut que les gens sentent l'urgence.
Faut vraiment qu'on se réveille là-dessus. Là.
Mais c'est ça. Et là, la rhétorique qu'on entend à Davos, Parce que d'habitude, Davos, c'est un sommet qui est économique. On s'en va faire des deals, des ententes, des partenariats. Là, on a un sommet de Davos qui est politique, géopolitique. Et j'entendais des gens qui trouvaient que la rhétorique était trop belliqueuse présentement, Emmanuel Macron notamment, et même M. Carney allait trop fort. Mais pour mobiliser un front commun, comment on fait face à une superpuissance comme les États-Unis qui a décidé que ses seuls intérêts comptaient, ses intérêts de la semaine, en passant, parce que je pense que M. Trump travaille contre ses propres intérêts à long terme. Comment on fait? Bien, c'est par un front commun. Et l'Europe, notamment, ici, on est un pays qui a de la misère des fois à s'entendre même à l'interne. Mais imaginez l'Europe, c'est compliqué, c'est morcelé. Et en ce moment, dans les dernières années en Europe, il y a un mouvement plus isolationniste anti-européen, une montée de l'extrême droite notamment, qui remet en question les institutions européennes. Il y a eu le Brexit aussi, avec la Grande-Bretagne qui a quitté l'Union européenne. Donc, c'est pas facile de faire un front commun européen. C'est facile à dire, là. Mais ce n'est pas si facile à faire. Donc, j'ai l'impression que la rhétorique ne va pas se calmer parce qu'il y a juste quand on est dans l'extrême limite d'urgence que les choses bougent. On est habitué à vivre dans un monde où c'était l'hégémonie américaine, la paix américaine mondiale, la démocratie et puis les belles pensées. C'est terminé. Mais on ne s'adapte pas à ça du jour au lendemain. Et le Groenland devient une espèce de symbole en ce moment. Et c'est une espèce de ligne rouge. Et si M. Trump avait voulu augmenter la présence américaine puis la sécurité au Groenland, il aurait pu le faire autrement. Alors, ça nous amène au problème canadien puis au 51e État. Si M. Trump veut notre eau puis nos minéraux stratégiques, il aurait pu procéder autrement qu'en menaçant d'annexer puis en commençant à nous décrédibiliser en disant qu'on ne défend pas notre territoire, on n'est pas bon, il n'y a pas le choix, il va falloir qu'il nous envahisse. Et ça nous ramène à la psychologie même du personnage. Il veut être le président le plus marquant de l'histoire des États-Unis. Il veut redécouper son territoire. Il veut, parce que comme son idole politique, l'ancien président McKinley, annexer des territoires. Donc, cette menace-là, elle est tellement sérieuse que notre armée est en train de préparer des plans de contingence en cas d'envahissement américain, d'invasion américaine. Je vous glisse quand même au passage qu'il y a des plans pour toutes sortes d'affaires, là, des attaques nucléaires sur Toronto. Ils font des plans pour tout, mais quand même, c'est moins théorique que ça l'était il y a un an.
En effet, tu as entièrement raison. On écoute Mark Carney, justement, à ce même sommet. Là, vous allez l'entendre en anglais, c'est le traducteur en français qui parle par-dessus.
Les puissances doivent travailler ensemble, car si nous ne sommes pas à la table, nous serons menus. Dans un monde de rivalité entre les grandes puissances, les pays entre ces grandes puissances ont un choix. Compétitionner entre chacun pour des faveurs ou encore se mettre ensemble pour créer une troisième voie qui aura de l'impact. Nous ne devrions pas permettre la hausse des grandes puissances tout en demeurant aveugle à la légitimité, l'intégrité et le respect des règles. Si nous choisissons, nous allons le faire ensemble.
Est-ce que Mark Carney va réussir son pari, justement, de s'allier avec l'Europe et de créer cette autre puissance-là? Parce que quand il parle des grandes puissances, évidemment, il parle Russie, Chine et États-Unis.
Oui, on n'a pas le choix, en fait. On ne peut pas se fier sur le partenariat avec les États-Unis et même sur la parole de M. Trump. L'entente, je sors un peu de la guerre et des annexions.
Vas-y.
Là, pour parler juste des tarifs et du libre-échange. L'accord de libre-échange nord-américain, c'est lui qui l'a signé et il l'a remis en question sans aucune forme de gêne. Là. Donc, les États-Unis en ce moment sont tellement imprévisibles que le Canada va essayer de se présenter face à l'Europe. Il faut premièrement qu'il y ait un message très clair qu'on n'est plus le chien de poche des États-Unis.
Exactement.
Puis d'envoyer un message de « nous, on est fiable, on est prévisible, on n'est peut-être pas un aussi gros marché, mais on veut faire partie de ce qui est en train de se redessiner à travers le monde, c'est-à-dire… » On essaie de repatenter le monde et notre manière et les alliances à la lumière d'un nouveau monde. Il faut quand même dire, juste lueur d'espoir en terminant, là. Aux États-Unis, ça divise. Hein. La question du Groenland, notamment, là, même les républicains ne sont pas très favorables à ce que la force soit utilisée pour annexer des territoires. Même au sein du mouvement MAGA, les questions d'intervention militaire à travers le monde, puis jouer à la police des dictatures et compagnie, ça fait débat, ça, puis les dossiers de Epstein, là, mais ça, c'est une autre histoire. Et à moins que M. Trump décide carrément d'instaurer une dictature cette année, il y a des élections de mi-mandat qui s'en viennent. Et M. Trump est quand même pas dans une situation si facile à l'intérieur, parce que c'est vraiment le peuple américain qui a les clés entre ses mains présentement pour faire une différence et freiner M. Trump, parce qu'il a décidé qu'on est dans un monde où c'est la loi du plus fort en ce moment, et le plus fort, ben, c'est les États-Unis encore.
Puis il y a le gros bout du bâton au niveau du Canada. Moi, c'est ce qui... Mettons, en termes de politique fédérale, Antonine, je ne sais pas pour toi, mais ce qui m'effraie actuellement, c'est qu'on est vraiment dans ce... Puis, tu sais, on va parler pour nous, là, à travers le monde, ça se voit aussi, mais dans la réélection, après les mandats, ça veut dire qu'un politicien va réfléchir à comment est-ce que je vais être réélu, donc les priorités pour beaucoup de mon mandat, ce sera sur ce qui va me faire réélire. L'armée a été prise, non au sérieux pendant des années, tandis que là, on paie un peu pour ça, parce que tu l'as dit, on était chien de poche des États-Unis, les États-Unis se divisent de nous. On nous a demandé de payer notre cotation à l'OTAN si on voulait être encore défendu par les États-Unis. On y arrive à peine ou peu, puis là, on va dire, on va s'engager pour payer 5 % de notre PIB pour l'OTAN jusqu'en 2035. 2035, ce sera peut-être plus Mark Carney qui va être à la tête, fait que ça va être un peu de relancer ça dans la cour de la prochaine personne, si jamais. Donc, on est capable de faire des ententes, puis de faire des promesses, mais par la suite, si on les respecte pas, ben on prend encore du retard là-dedans. Puis en plus, on n'est même pas pris au sérieux au niveau de l'armée dans le monde.
Il faudrait qu'on arrête nous-mêmes de dire qu'on n'est pas bon. Là, moi, je lis beaucoup de commentaires sur les médias sociaux qui disent que les États-Unis nous battraient en deux minutes. On disait ça aussi de l'Ukraine. Là, je veux pas être dramatique.
Non, mais...
Il faudrait au moins commencer à se tenir le dos droit.
On a des super bonnes troupes qui entraînent aussi l'Ukraine depuis, même avant l'invasion. Là, ils étaient déjà sur place. C'est juste qu'on n'a pas les finances, on n'a pas...
Mais il n'y a personne qui a les moyens de partir à la guerre quand c'est la guerre. Là. Je veux juste vous le dire. Puis, de toute façon, on ne fera pas toute l'histoire, mais l'économie de la guerre, c'est quelque chose de... C'est un champ d'études fascinant. Maintenant, on est devant cette réalité-là et on ne peut plus s'en échapper. Donc,
faut pas penser à court terme, là. C'est ça le risque.
Mais ce n'était pas possible de le prévoir d'avance. Je veux juste dire, on dit qu'on n'a pas financé notre armée, etc. On avait un voisin stable, c'était notre ami. On avait un marché exceptionnel. Moi, je n'ai pas de pierre à jeter à quelqu'un qui n'a pas vu ça dans sa boule de cristal. C'est une situation qui est complètement folle. Et ce que fait Donald Trump, c'est absurde dans les faits. Il s'auto-nuit, il nuit à son économie, il nuit à la crédibilité des États-Unis à travers le monde. Il pourrait procéder autrement pour avoir accès aux ressources. Il ne le fait pas. Donc, écoutez, comment pouvait-on prévoir ça?
Je lance des pierres, par exemple, pour le Nord, très honnêtement. Là, heureusement, on a encore, même s'il y a des conflits entre les États-Unis, des soldats américains qui viennent s'entraîner avec nos soldats canadiens pour le Nord. Ça, c'est pas tombé. Mais moi, je lance des pierres.
Antonine Iacarini, merci beaucoup pour le caucus. C'est disponible du lundi au jeudi dans l'émission On en jase à compter de midi. Après cette courte pause, on va recevoir Luc Laliberté parce qu'on va continuer sur la thématique Groenland et Donald Trump. Un an à la Maison-Blanche déjà pour Donald Trump. Est-ce que ça vous a paru un siècle, 10 ans? Comment vous vous sentez face à cette première année de Donald Trump? Vous pouvez participer au 418-971-1021.
Oh, le retour au travail, ça fesse, hein? Le retour à l'école avec les jeunes, avec la routine, ça fesse aussi. Le café au bureau, c'est correct là, pour tenir l'après-midi, mais il me semble que celui du matin à la maison fait toute la différence. Hein? C'est pas mal votre petit bonheur quotidien. Peu importe où vous le prenez, dans quelle pièce vous le prenez, à quelle heure vous le prenez, c'est un moment tant attendu pour les amateurs de café ou encore de réveil avec la caféine. Puis l'endroit où moi je vous arrête et l'endroit où je vous amène, c'est chez Sobab sur la 3e avenue. Pourquoi? C'est une entreprise familiale qui est bien implantée depuis des années, qui fait affaire avec des torréfacteurs et des entrepreneurs d'ici, des gens qui sont dévoués et certainement plein de grains de café qui vont vous faire voyager aussi. Pourquoi? Parce que on a travaillé sur les meilleur café dans nos bines. Vous allez pouvoir avoir des sacs dégustation. On va prendre le temps d'en prendre un avec vous sur place pour trouver c'est quoi votre palette de goût au niveau du café. Vous aimez peut-être pas le café, mais c'est parce que vous n'avez pas choisi trouver le vôtre. Et ça fait tout un changement pour une belle journée, pour un moment à vous. Parce que des fois, il n'y a pas moyen d'en avoir un à part avec sa tasse de café bien chaude. C'est chez Café Sobab sur la 3e avenue ici à Limoilou. Conseil personnalisé autant sur l'achat des grains que sur les machines à café, les formations qui sont incluses, tout ça avec la meilleure équipe à Québec. C'est la crème de la crème du côté de chez Sobab, 3e avenue ou cafésobab.com.
Vous voulez vendre votre maison?
Émission Nangeur sur les ondes de Boulevard 102.1, ton émission du midi. Il est présentement midi 42 minutes, moins 14. Généralement soleil aujourd'hui avec le refroidissement éolien, c'est moins 27. Oh! T'as-tu fret, Pascal, à ton retour de vacances?
Il y a quelque chose qui est arrivé qui m'était jamais arrivé. Tu sais, quand tu bois du slotch, là, puis tu te gèles le cerveau.
Ouais.
Ben, ça m'a fait ça juste en marchant de ma voiture au bâtiment ici. Je savais pas que c'était possible. Le froid était mal glacial. Ça, il coupe les voies respiratoires, puis il te donne des brain freeze.
Ah, exactement. Moins 9 faible neige intermittente pour demain, jeudi, moins 4 de la neige et moins 10 ensoleillé pour vendredi. On a parlé avant la pause dans le caucus d'Antonine Iaccarini comment la situation avec les États-Unis est rendue problématique. Et aujourd'hui, on souligne le premier anniversaire de Donald Trump à la Maison-Blanche pour son deuxième mandat. Et qui de mieux pour en parler avec nous, Pascal, que Luc Laliberté, spécialiste en politique américaine. Luc, comment vas-tu?
Je vais égoïstement, dans mon univers à moi, coupé du reste de la planète, particulièrement bien.
C'est fou, on est rendu à le préciser, c'est fou ça.
Oui, voilà, c'est à partir du moment où je sors la tête sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie à l'extérieur de la maison, là, j'ai, comme tout le monde, constate que ça brasse et qu'on a, pas juste au plan de la météo, mais de la diplomatie internationale, un refroidissement climatique assez important.
Oui, hein, parce que Luc, après un an à la Maison-Blanche pour Donald Trump, je dirais que les premiers mois, peut-être même le premier trois quarts de l'année, les politiciens des différents pays importants en Europe, ici au Canada, avec Mark Carney, on a essayé de flatter Donald Trump dans le sens du poil, mais là, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Et je sens qu'il y a une très forte unité qui est en train de se créer entre les Européens et le Canada présentement.
Écoute, c'est à espérer. Quand on a un joueur qui, en si peu de temps, parce que je prends la peine de préciser, j'ai pas vraiment de surprise face à ce que fait Donald Trump aux États-Unis et sur la scène internationale. Pas de surprise, pourquoi? Pas parce que je suis plus fin que les autres, parce qu'il l'avait annoncé. C'était écrit noir sur blanc en politique intérieure ce qu'il allait faire, puis il s'est jamais caché de ses intentions non plus sur la scène internationale. Donc, c'est pas tellement ça qui m'impressionne que la rapidité à laquelle il agit, autant en politique intérieure qu'en politique extérieure. Son équipe était prête. On l'avait débarrassé de ceux qui parfois le retenaient, le gênaient, mettaient les freins. Ceux pour qui les normes ou encore les lois ou la Constitution, c'est important. Ces gens-là sont disparus entre le premier et le deuxième mandat. Et sur la scène internationale, je pense qu'on a vraiment réalisé ce dont on se doutait tous, pour peu qu'on l'ait suivi, qu'on se soit intéressé à lui. Donald Trump, c'est un peu le bully dans la cour d'école. Tu peux lui partager ton lunch, tu peux lui donner ton argent ou ton allocation à chaque jour, il va toujours en demander plus. Tant que tu donnes, il prend. Et c'est ce que les Européens ont l'air de confirmer depuis, j'avais envie de vous dire, quelques semaines, quelques jours, et en particulier aujourd'hui. Donc, pour la première fois, les Européens qui savent qu'ils vont avoir à jouer en équipe, les Européens tentaient chacun à sa manière, pays par pays, de le flatter, de gagner un peu de temps, de sauver une entente ou d'éviter les tarifs. Mais là, ce qu'on constate, c'est que plus que jamais, il faut serrer les coudes. L'Europe, quand ces pays-là fonctionnent ensemble, ça peut encore être une puissance au plan international. Donc, la stratégie de Trump, c'est diviser pour régner. C'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Si on est du côté européen, puis du côté canadien, M. Carney le sait aussi, parce que c'est parmi les premiers qu'il a approchés après son élection, les Européens. Le Canada, maintenant, ça paraît étrange de le dire, est isolé géographiquement. On a toujours eu le voisin influent, le voisin qui était notre économie, qui était notre sécurité, qui était notre diplomatie. C'était pas toujours facile, mais on n'avait pas de voisin hostile. On est maintenant avec un voisin hostile, on fait quoi? On peut remettre en question l'ouverture de M. Carney sur la Chine. Le geste de rapprochement avec l'Europe, il ne peut pas être plus clair et plus nécessaire que maintenant.
Si on s'est appuyé pendant de nombreuses années sur les États-Unis, rarement, et je pense qu'aucune des relations entre pays n'est faite que par gentillesse et bienveillance. Donc, ils s'attendaient fort probablement à ce qu'on leur rende quelque chose. Est-ce que leur rendre quelque chose, c'était le territoire, les ressources dans un avenir rapproché maintenant que Donald Trump est au pouvoir?
Écoute, la politique de sécurité nationale des États-Unis, elle est on ne peut plus claire. Trump dit « l'hémisphère ouest, c'est à moi ». Je laisserai, sauf des enjeux stratégiques hyper importants, je laisserai aux autres leur territoire. On dirait un peu, puis là, je l'assume pleinement, on dirait au plan international qu'on négocie avec entre familles mafieuses. Hein, c'est chacun délimite son territoire. Tant que tu ne joues pas sur mon territoire, ça va aller. Malheureusement pour Donald Trump, son territoire, c'est devenu nous aussi. Donc, il a menacé la Colombie, il a menacé Cuba, il a menacé le Venezuela. Dans l'hémisphère ouest, bien là, il y a le Groenland, c'est comme le gros sujet du jour, mais il y a cette carte qui a circulé, hein, un montage d'intelligence artificielle où Donald Trump présente le Canada avec les couleurs du drapeau américain. Donc, c'est très clair que soit économiquement, soit par la force, c'est le cas du Venezuela, ce qu'on veut, c'est contrôler l'Amérique. C'est chez nous. Donc, c'est ce qu'on appelait historiquement la doctrine de Monroe, mais là, c'est un cran plus loin que ce qu'on a vécu avant dans l'histoire.
Donc, on est sur la Donroe maintenant, Luc la Liberté, comme les experts nous le disent. Pour rappel, on parle avec Luc la Liberté, spécialiste en politique américaine, les chroniqueurs ici à Boulevard, on l'adore. Luc, on parle beaucoup des élections de mi-mandat, puis on se dit que c'est là que Trump va tomber une première fois parce qu'il va perdre ses majorités. Mais il y a une excellente question de Dave, auditeur ici à Boulevard 101, qui mentionne « Si Donald Trump commence un conflit quelconque, est-ce que ça pourrait justifier de ne pas faire d'élection de mi-mandat? »
La réponse pour Dave et pour tous ceux que la question intéresse, parce qu'elle est pertinente et drôlement importante, la réponse c'est non. Il va y avoir des élections de mi-mandat. Si jamais Donald Trump souhaitait interférer avec le déroulement d'élections, ça ne se ferait pas en annulant l'élection. Donc, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, même pendant la guerre de sécession, on est en pleine guerre civile, il y a eu des élections aux États-Unis. Et il n'y a aucun mécanisme qui prévoit qu'on puisse ne pas avoir une élection. Maintenant, ce qu'on peut faire, je le dis dans des termes un peu plus vulgarisés, ce qu'on peut faire, c'est foutre le bordel. Un exemple de ce qui pourrait se produire pendant une élection, c'est ce qui se passe actuellement au Minnesota. Si vous faites le topo de tout ce qui se passe au Minnesota depuis 2-3 semaines, vous avez exactement le genre de situation qui pourrait faire que les résultats de l'élection seraient teintés. Parce qu'on ne peut pas dire que les élections actuellement se dérouleraient normalement si on est au Minnesota. On vient d'ailleurs d'ouvrir une enquête criminelle sur l'Attorney General, le procureur général du Minnesota. On a des militaires américains, c'est pas rien, on en a 1500 en réserve dont on dit ils peuvent s'en aller au Minnesota, là, ils sont prêts. On a menacé de fédéraliser la garde nationale et on a la police frontalière qui est dans les rues et qui se comportent de manière à ce qu'un juge ait dû leur rappeler « Voici ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire avec des citoyens américains. » Parce qu'ils sont là pour la police frontalière et pour l'immigration, mais on les a vus arrêter et détenir des gens sans aucune justification, sans aucun mandat, puis sans leur laisser la chance de se défendre, ce dont on a tous le droit, autant aux États-Unis qu'ici. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est volontairement, je pense, provoquer la population, semer le chaos et nuire au déroulement dans une élection. En quoi c'est grave, puis en quoi c'est pas ce que je mentionnais tout à l'heure, en disant on n'a pas le droit d'empêcher des élections, c'est quand est-ce qu'on va certifier les résultats au Minnesota si jamais cette situation-là perdurait? Et je pense que le Minnesota est un test. Donald Trump a menacé d'autres États de faire la même chose. Il s'est essayé avant que les tribunaux le fassent reculer ou qu'on le condamne après coup. Ça a été le cas, par exemple, à Los Angeles. Alors, on verra ce que ça va donner. Mais les prochaines semaines, autant en politique intérieure que les prochains mois, en politique intérieure, autant que sur la scène internationale, dites-vous que c'est déterminant. C'est loin, parfois, hein, la politique internationale, quand on se lève le matin, qu'on est dans son char bien fret en québécois, on se dit « je vais me rendre au bureau, il faut que j'aille faire l'épicerie, il faut que j'aille chercher les enfants ». Dites-vous que ce qui se passe sur la scène internationale va avoir un lien direct avec le déroulement de vos journées éventuellement. Ce n'est pas normal, ce n'est pas sain, et c'est de la politique on ne peut plus brutale et dure qui nous guette pour 2026.
Et ça, on dirait que c'est jamais aussi important que lorsqu'on est rendu dans les deux pieds, tandis que si on s'était intéressé à ça...
Et c'est bien normal. Chaque matin, quand on se lève, hein, c'est le train-train de la famille, du conjoint, de la conjointe. On a un travail à faire, on veut s'en acquitter. On a tout le quotidien qui, parfois, déjà est complexe. C'est quand on est en bonne santé. Certains ont des problèmes de santé aussi. Mais parfois, ça vaut la peine d'essayer de se hausser un peu au-dessus du quotidien pour dire... Attendez un peu, là, ça se passe pas juste aux États-Unis. Tout ça va avoir une incidence sur le Canada
et
sur le Québec.
je mets même pas ça sur la tête des gens. T'sais, moi, je compare ça à... Bon, c'est sûr que c'est plus dans leur cours bien souvent, mais je veux dire, en Europe, c'est un fil quotidien. L'international occupe autant de place que le régional. Puis ça, pour moi, c'est une grande faille que l'on a. Pour Donald Trump, il semble justement faire des tests. Il réussit ses tests, il sait qu'il peut aller plus loin, etc. Plusieurs politiciens, dans leur conversation, se sont dit, bon, faut pas appuyer là où ça fait mal, parce qu'il va sévir, mais en même temps, il faut rester droit. Mais c'est complexe. Ça semble être impossible à négocier avec un Donald Trump. Ça, on va être perdant, peu importe. On semble considérer que c'est quelqu'un qui va falloir qu'il parte si on veut rétablir les choses. Puis encore là, il va avoir des dommages pour les décennies à venir.
Et nous en sommes au point où, je me répète un peu, mais où il faut, entre pays, entre régions, se serrer les coudes. Le Canada a fait combien de concessions depuis que Donald Trump a été réélu? On est passé par cette foutaise et par cet argument bidon du fin d'année de la frontière pour dire on a même créé un poste qui n'existait pas.
Le tsar!
Le tsar du fin d'année. Ça n'existe pas, ça, comme fonction, mais on a copié le modèle américain. Aux États-Unis, on nomme des tsars. Hein, c'est le titre qu'on utilise. Alors, on a marqué le coup. Mais pendant combien de temps est-ce qu'on va faire des concessions ou on va tenter d'acheter du temps? Et ce n'est pas une condamnation de nos politiciens. D'ailleurs, on a joué un peu le bon cop, bad cop. Là, on a eu Doug Ford qui frappait d'un côté, Mark Carney qui flattait de l'autre. Et je pense que la stratégie était habile, mais je pense qu'on arrive à ce point de rupture. C'est que les politiciens le savaient déjà. Je suis certain qu'en Ontario, au Québec ou à Ottawa, on savait à qui on avait affaire déjà, puis on est en contact plus étroit que les chroniqueurs ou que les citoyens avec le gouvernement américain. Mais je pense qu'on a quand même essayé d'acheter du temps. Parce qu'à court terme, Donald Trump gagne, c'est clair. Nos options, nos solutions, c'est à moyen et à long terme. Donc, est-ce qu'on peut négocier avec Donald Trump? Rappelez-vous ça, en tout cas à mon avis. Est-ce que vous étiez capable de négocier avec un boulet dans la cour d'école, si c'était pas vous le boulet, bien sûr, mais étiez-vous capable de négocier avec le boulet dans la cour d'école? Moi, je sais bien qu'il y en avait, puis le jour où on s'est levé, ben ça a arrêté. Mais sinon, ben il nous attendait à chaque jour pour intimider puis prendre ce qu'il voulait. Je veux, je prends, c'est pas mal. Il y a plus de diplomatie en politique américaine, hein, sur la scène internationale. C'est de la force, c'est de la menace et c'est de l'intimidation. Pendant combien de temps on se divise en espérant le meilleur? Moi, je pense que le meilleur, on ne l'aura pas.
Non, exactement. Puis je crois que Mark Carney joue bien ses cartes à l'heure actuelle, là, en se rapprochant.
Jusqu'à maintenant, c'est un jeu d'équilibré, c'est impressionnant, mais je pense qu'aujourd'hui, entre autres, il a passé un message qui est important et il l'a passé au bon endroit.
Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Luc, la liberté est toujours un bonheur et un plaisir de te parler. On en apprend toujours davantage sur les politiques américaines. Donc, on va continuer à suivre la situation de très près. Au plaisir de se reparler très rapidement, mon Luc.
Écoute, une bonne fin de journée à vous deux puis à tous les auditeurs et auditrices qui sont à l'écoute aussi.
Merci. Luc Laliberté, spécialiste en politique américaine. Plus que jamais, il faut se tourner vers d'autres partenaires. C'est l'endroit où on est. Si vous n'avez pas eu la chance de l'écouter, allez écouter le discours de Mark Carney à Davos aujourd'hui au sommet économique. C'est vraiment, ça frappe la cassure avec les États-Unis, clairement.
J'ai l'impression qu'il va falloir qu'on accepte de perdre socialement. Je m'explique rapidement. Il y a un moment où il va falloir qu'on... Si on veut rester fort, rester droit en tant que pays, économiquement aussi, on va souffrir.
Oui.
En tant qu'individu, là, socialement, on va souffrir, que ce soit l'inflation, que ce soit le manque de produits, que ce soit... Faudrait peut-être... Je me questionne, je réfléchis, je brainstorm, je parle à des spécialistes. Je me demande s'il va pas falloir qu'on passe par un genre d'époque de ce type-là, où qu'on aura moins de choses sur les tablettes, où qu'on aura moins... Juste le temps de se réapproprier notre économie, de faire rouler l'économie par nous-mêmes un petit peu plus, d'être moins interdépendant de d'autres pays. J'ai l'impression qu'il faudrait manger à claque, mais que les politiciens ne sont pas prêts à nous la faire manger, même si ça peut être une partie de la solution.
Mais tu as raison, on va falloir souffrir économiquement. Il n'y a pas de doute dans mon esprit, il va falloir souffrir de certains de nos privilèges pour défendre nos valeurs.
Ben, je crois aussi, je pense qu'on est rendu là.
Ah oui,
ça va être dur à faire passer politiquement.
Très difficile.
Puis même nous, là, du jour au lendemain, tu n'as pas ta banane, par exemple.
Très difficile, sauf que quand je regarde les commentaires des auditeurs, je pense qu'il y en a qui sont prêts à le faire parce que Donald Trump est vraiment dans l'exagération à l'heure actuelle. Puis tiens, je vous pose la question. 418-971-1021. Êtes-vous prêt à souffrir économiquement? Êtes-vous prêt à avoir moins de moins de produits sur les tablettes, de perdre votre petit confort, tiens, pour défendre les valeurs de la démocratie, les valeurs canadiennes, les valeurs québécoises aussi. Donc, écrivez-nous 418-971-1021. On a parlé énormément de Donald Trump, Pascal. Qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité, à part le président américain qui prend encore toute la place?
Oui, c'est sûr que là, c'est pas mal dans nos, dans nos nouvelles. On parlait de Mark Carney aussi, donc je ne reviendrai pas sur, oui, sur le dossier. On parlait de l'armée canadienne il n'y a pas longtemps à l'émission en ouverture. En fait, ce qui a popé aujourd'hui par rapport à l'armée, c'est qu'on a modélisé un scénario d'invasion militaire du pays par les États-Unis. C'est des réponses qui sont étudiées à Ottawa. Il ne faut pas s'affoler. On ne dit pas que c'est ça qui va arriver demain matin. Mais comme n'importe quelle armée, on travaille sur des scénarios. Et le Globe and Mail, au moment où Trump a fait une nouvelle allusion à la possible conquête du Canada, s'est mis à réfléchir sur ces dites questions. Ce serait la première fois depuis plus d'un siècle que l'armée canadienne est là-dedans. Donc, qu'on envisage cette possibilité-là. Une invasion est quand même différente de une prise de territoire. Il y a quand même une conquête qui est plus territoriale et de ressources dans ce cas-ci. Donc, c'est pas de faire du dommage aux gens qui y habitent. Mm-hmm. Faut faire attention. L'Université Laval, meilleur employeur au Canada, c'est un classement qui est affiché aujourd'hui. Donc, c'est Forbes, 11e édition du palmarès. Et on se hisse au premier rang ici avec notre université à Québec pour les meilleurs employeurs au Canada en 2026. C'est une première pour l'Université Laval. Le nom figure dans cette liste depuis plusieurs années, mais là, vraiment, on se classe première au Canada à titre de meilleur employeur. Et on est devant les entreprises comme Google, Microsoft, Hydro-Québec et Desjardins. À vous, mesdames et messieurs, de vous prononcer pour ceux qui y travaillent, à savoir, ouais, c'est vrai ou c'est pas vrai?
Ben voyons, c'est la seule communication, mais en vrai.
Premier de la liste. Quand repêché dans le fleuve à Québec, c'est loin d'être une belle histoire, celle-là, okay, mais oui, je dois en parler. Susanna Rocha Cruz, c'est un corps qu'on avait retrouvé près du quai 22 la semaine passée et là on a identifié cette personne-là et il s'agit réellement de Susanna Rocha Cruz. L'affaire, c'est que son conjoint est accusé de meurtre au deuxième degré. Elle a bel et bien été victime d'un homicide, c'est ce que la police de Québec a confirmé. Alors, Abraham Gonzalez Leon a comparu aujourd'hui au Palais de justice de Québec pour meurtre au deuxième degré. C'est un corps qui avait été repêché, comme je vous dis, par les plongeurs de la Sûreté du Québec. Et c'est absolument tragique. Là. On pense qu'elle a été victime de meurtre. On est vraiment là-dedans. Donc, on a confirmé que la femme de 44 ans était la conjointe d'Abraham Gonzalez Leon. Il avait d'abord été arrêté pour voie de fait, causant des lésions la semaine dernière. Il était de retour en cour il y a 43 ans. Et voici les nouveaux chefs d'accusation, donc celui de meurtre au deuxième degré, pour un événement qui serait survenu entre le 7 et le 9 janvier. Il faut encore avoir plus d'informations, mais on est là-dedans. L'accusé était physiquement dans le box et il était, bon, on dit, impassible. Il faisait juste hocher de la tête pendant les explications de son dossier. Et ça, c'est reporté au 9 mars prochain. Pour plus d'informations, il va falloir suivre le dit dossier.
Oui, la victime s'était confiée à des proches, justement, qu'elle craignait pour la sécurité de son enfant, là, en raison de sa relation, ouais, avec cette personne. Une petite dernière pour la route?
Bien, Québec va déclencher une élection partielle dans la circonscription de Chicoutimi. Ça aussi, c'est une nouvelle qui prend d'assaut notre journée aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on a indiqué. Le premier ministre François Legault qui va signer aujourd'hui le décret ministériel pour un scrutin. Ça va avoir lieu le 23 février prochain.
Au sport, le Canadien affronte le Wild du Minnesota ce soir au Centre Bell. Le Wild qui l'a emporté 6-3 hier contre les Maple Leafs de Toronto. Le match est à 19h sur les zones d'RDS avec Pierre Houde et Marc Denis. Et au sport collégial américain, au football, c'est une victoire hier des Hoosiers d'Indiana, 27-21 sur les Hurricanes de Miami. Ça leur fait un dossier de 16 victoires et aucun revers pour la saison. C'est un premier championnat national en carrière pour l'Université Indiana. Fernando Mendoza a bien fait avec 186 verges de gain. Ça devrait être le premier choix au prochain repêchage de la NFL. Après la pause, Rémi Villemur, l'excellent animateur au 99.5 Montréal, vient s'installer. Bon, on va parler un peu de la course à la chefferie à la CAQ, mais on va surtout parler de cette conférence, Pascal, oui, qui a été annulée à l'Université d'Ottawa parce qu'il y avait un spécialiste qui voulait nous parler de pourquoi il y a des animaux qui sont masculins puis pourquoi il y en a féminins. Puis là, ben, il y a eu une montée de lait des gens en disant « Mais ça n'a pas d'allure. »
Ah, c'est parce qu'on les oblige à être là, non?
Non,
on
non,
les séquestrait
non,
dans
non,
la pièce.
Non, 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 non. Non? Non, ça n'a pas d'allure. On a juste parlé masculin, féminin. On fait quoi avec les animaux non-binaires? Rémi Villemur nous explique ceci après la pause. Vous ne rêvez pas, chers auditeurs et auditrices de Boulevard 102.
À Boulevard 102. Jusqu'à 14h, on en jase.
Boulevard 102.1.
Avec Jeff Fortin et Pascal CV.
Émission en jase sur les ondes de Boulevard 101. Il est présentement 13h09. Je vous le rappelle, 418-971-1021 pour interagir. Et je sens, Pascal, que les auditeurs vont vraiment interagir et écrire lorsqu'avec Rémi Villemur, on sera sur le sujet de est-ce que les animaux peuvent être non-binaires?
Moi, j'ai hâte de l'entendre là-dessus parce qu'honnêtement, ça aurait été mon genre de juste pas donner de temps exactement à ce genre de nouvelles-là. Fait que je veux entendre sa position, Rémi. Bon, quel côté il va prendre? Ouais. La philosophie, la psychologie, il va être en accord, désaccord. Très honnêtement, là-dessus, je peux pas me positionner sur ce que Rémi va dire.
Rémi a toujours des bons sujets comme ça. BLVD.fm, c'est une façon de nous écouter avec la web radio. C'est nos meilleurs moments qui se retrouvent sur ce site web, l'application BLVD 102, disponible App Store, Google Play Store. Les haut-parleurs intelligents, vous dites écoutez BLVD, twitch.tv/BLVD/FM également pour nous suivre. Et allez vous abonner à notre page YouTube, vous y retrouvez du contenu exclusif. Notamment le pit stop de ce matin, on s'est assiné sur la musique francophone dans le Vieux-Québec. C'était très, 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 très intéressant.
C'était un débat ou une chicane?
C'était un débat, là. C'était un débat. On était pas mal 3-1.
C'était un gangbang.
Moi, Yannick et Max ont privilégié le fait français dans le Vieux-Québec. Denis Gravel n'était pas d'accord avec nous. Mais il y a eu un bon assinage entre Max Larouche, le grand défenseur de la souveraineté du Québec, et Denis Gravel. C'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Merci aussi d'interagir au niveau là, du chat sur Twitch. Rémi Villemur, qu'on va rejoindre, un animateur au 99.5, excellent animateur. La semaine du lundi au jeudi de 18h à 19h et le week-end avec Jacinthe Varel de 8h à 10h le matin. Comment vas-tu, mon ami?
Ah, je vais super bien. Moi, j'habite pas au Groenland, donc tout va bien.
Ouais, c'est ça, exactement. On en a parlé justement avec Antonine Iacarini et Luc Laliberté. Rémi, avant de passer à ce sujet, est-ce que les animaux peuvent être non-binaires? Tu voulais me parler un peu de la course à la chefferie de la CAQ puis me dire, hey, ça serait quel le candidat que les oppositions rêvent de voir chef de la CAQ?
Ben oui, ben c'est parce que, bon, là, il y aurait deux candidats qui seraient sur le point de confirmer leur candidature. On parle de Christine Fréchette et Simon-Jolin Barrette. Je précise quand même que pour ce qui est de Christine Fréchette, elle semble avoir un pas de plus de fait dans cette direction-là. Je pense que Simon-Jolin Barrette, étant donné le fait qu'il appartienne à l'aile bleue du parti et que Bernard Drainville... Oui. Lui aussi soit en train de faire des appels, je pense que lui, ça va dépendre de l'intérêt de Bernard Drainville. Mais Christine Fréchette, elle n'a pas pour le moment d'opposition là, dans son aile. On l'associe plus à l'aile rouge là, du parti. Vous savez, si c'est Christine Fréchette qui devient la chef de la CAQ, je pense que les libéraux de Charles Milliard vont être inquiets. Parce qu'ils vont se dire, ouais, là, on a quelqu'un d'autre qui incarne le Québec dans le Canada, l'économie. Mince, on va peut-être perdre tous les appuis qu'on était allé rechercher à l'intérieur de la CAQ et qui se sont retransportés au Parti libéral du Québec. Pour ce qui est du PQ, hein, qui trône premier dans les sondages depuis 2 ans, on ne cesse de dire qu'il n'y a pas vraiment de façon à ce que le Parti québécois tombe deuxième, troisième. Il a un ticket direct vers l'Assemblée nationale, on parle même d'un gouvernement majoritaire, ben, je regrette, mais si Bernard Drainville ou encore Simon-Jolin Barrette est le prochain chef de la CAQ, tout le vote dont on ne cesse de parler, nationaliste qui est au Parti québécois, mais qui n'est pas un vote qui serait en faveur demain matin d'un référendum, ben, il risque de retourner à la CAQ. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est pour ça que la vraie course la plus intéressante en ce moment, c'est pas celle au Parti libéral, à vrai dire, il n'y a pas vraiment de course, mais c'est cette course qui n'est même pas commencée, à vrai dire, à la CAQ. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on a tous les partis qui sont impliqués finalement dans cette course-là.
T'as-tu l'impression que les libéraux pourraient quand même avancer dans cette course-là parce qu'ils ont une équipe un peu plus soudée, ils ont une équipe qui est peut-être moins problématique dans le sens où on a des sièges annoncés, malgré la polémique Pablo Rodriguez? Est-ce que même chacun des partis pourrait se voir être dans la réussite de redorer leur blason?
Ben, en tout cas, pour le Parti libéral, la difficulté que va rencontrer le parti, c'est que Charles Milliard n'est pas un élu de l'Assemblée nationale. Donc, ça, des fois, je pense qu'on sous-estime l'effet que ça procure, ça, de ne pas pouvoir entrer à l'Assemblée nationale, de tenir des points de presse, d'être surtout au Salon Bleu, en fait. Parce que tu peux rentrer à l'Assemblée nationale, faire ton point de presse, mais tu ne peux pas être au Salon Bleu et t'opposer au Premier ministre, t'opposer à l'opposition et faire ta marque. Tu es obligé de faire ça de l'extérieur. Donc ça pourrait être difficile pour les libéraux. Pour ce qui est du PQ, on a vu à la fin de la dernière session parlementaire que Paul Saint-Pierre Plamondon prenait des risques un peu inutiles. C'est-à-dire que tu es premier dans les sondages, puis tu t'en vas.
Aplaventrisme.
Ouais, bon, moi je pense qu'il avait raison, mais sauf que tu sais, à un moment donné, c'était pas utile. Il avait perdu quelques points. Là, ce qu'on risque de voir, c'est un Charles Milliard un peu plus, disons, un peu plus porté à s'exprimer sur la place publique parce que lui, il n'a pas le choix, il faut qu'il se fasse découvrir des Québécois. Ce n'est pas tous les Québécois qui le connaissent, mais je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon risque d'être assez discret. Aujourd'hui, il a présenté une candidate dans une circonscription à déterminer, mais ça va être à peu près ça d'ici le mois de février. On ne risque pas de l'entendre énormément parce qu'il n'y a pas d'intérêt à parler.
Ben, et surtout que la dernière fois qu'il a parlé, il y a eu d'énormes frasques pour le parti. Ça a été particulier de le voir prendre position dans des dossiers chauds puis même mettre de l'huile sur le feu pour aucune raison, là.
Oui, absolument. Après, ce n'est pas une habitude
Non.
qu'il est forcément obligé de prendre, là. Ça se peut que maintenant, la prochaine fois qu'il s'exprime, ça soit une bonne chose qu'il dise, mais il n'a pas besoin de parler en ce moment. Il a juste besoin de voir la CAQ se diviser parce qu'elle va se diviser. Ça ne va pas être beau, là, en passant, ce qui va se passer. Et les libéraux, ben, c'est un peu drôle ce qui se passe. Il y a un gars qui s'accroche, Mario Roy, je pense que vous lui avez parlé la semaine dernière,
Oui.
à l'idée de se présenter. Donc, peut-être que ça va procurer des ennuis au Parti libéral. Donc, le PQ a juste besoin d'être discret là-dedans.
En effet, je partage ton opinion à 100%. Bon, Rémi, passons aux vraies choses. Les animaux binaires, masculins et
Pour
féminins.
vrai, je comprends pas le
Est-ce
sujet.
que les animaux peuvent devenir non-binaires? Là, sur Twitch, David nous dit, c'est un gros non. Mais raconte-nous cette polémique à l'Université d'Ottawa, s'il vous plaît, Rémi, pour le bénéfice de nos auditeurs.
Ouais, ben là, je vais peut-être vous décevoir parce que je n'aurai pas la prétention de pouvoir trancher sur cette question-là. Ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'à l'Université d'Ottawa, il y a un professeur de biologie qui s'appelle François Chapleau, qui est un peu, je dirais, le mouton noir de son département parce que, ben, à l'Université d'Ottawa, il y a quelques professeurs dans quelques départements qui ne s'entendent pas avec leurs collègues parce que ils sont accrochés à quelque chose qui s'appelle le gros bon sens. Puis c'est une université qui a
Attends, attends,
perdu.
attends, attends. Un animal qui va être masculin ou féminin, t'es en train de me dire que c'est de gros bon sens?
Ouais, j'ose aller là. Ben, en fait, lui, il proposait une conférence sur la binarité de certaines espèces animales. Donc, il a dit, et il allait aborder, mais là, vous allez voir, la conférence n'a pas eu lieu, et il allait aborder les différentes controverses entourant la remise en question de la binarité de certaines espèces animales. Et là, c'est ça pour moi le sujet, c'est qu'il y a un étudiant, pas un professeur, pas un érudit, pas un détenteur d'un doctorat spécialiste de telle université à l'étranger, un étudiant qui a vu passer l'annonce de la conférence et qui a écrit au département de biologie de l'Université d'Ottawa pour dire, moi, je pense que cette conférence-là ne devrait pas se tenir parce que ce professeur-là a telle réputation, il a déjà tenu des propos transphobes, tatati tatata, et il a eu gain de cause. Pour moi, la nouvelle est là. Hein? Moi, je suis un peu tanné, un peu comme Pascal semblait l'être, que l'on parle de ces affaires-là, que l'on donne de l'attention à ces nouvelles-là. Par contre, quand un étudiant, hein, et il fut un temps où les étudiants s'inclinaient quand même devant l'autorité des professeurs, quand il est question d'un étudiant qui réussit grâce à un chantage émotionnel, parce que ce n'est que ça, d'obtenir la tête d'un professeur, ou en tout cas d'obtenir l'annulation d'une conférence d'un professeur, ben là, on est dans un monde à l'envers. On est dans un monde où les professeurs, ça leur donne quoi d'avoir un doctorat s'ils sont pour se faire donner des petites gifles et des tapes en arrière du cul par des étudiants dans une université? Ça donne rien. Hein? Moi, je décourage alors tous les étudiants en ce moment qui nous écoutent, qui veulent faire un doctorat puis qui veulent devenir professeur. Vous allez vous faire la loi par des petits clin-clin.
Des TQ, tu parlais de QTQ, qui apprennent et qui sont supposés apprendre de ce savoir-là, en prendre et en laisser, avoir un esprit de débat et tout ça. Moi, je trouve ça épouvantable. T'sais, la nouvelle est là, puis je suis contente de t'entendre, Rémi, parce que je suis d'accord avec toi. Si un étudiant ou une étudiante, peu importe, dans n'importe quel cas, est capable de renverser une conférence dans laquelle tu n'es pas séquestré pour y aller, y a un méchant problème. On s'entend que sa participation volontaire, en plus, tu peux aller voir, tu peux faire ta propre idée de ça. On est en train de contrôler les discours, contrôler les études. Puis, tu sais, on aurait pu parler des hermaphrodites aussi. Je ne sais pas si ça cause problème là, qu'on parle des animaux qui ont deux sexes. Là. Entre autres, on en voit chez les invertébrés, les vers de terre, les escargots, les limaces, etc. Il y en a plein. Tu sais, à un moment donné, on peut aborder et se questionner sur plein de choses. Je suis d'accord. Est-ce que ce professeur-là a parlé dans l'espace public, Rémi, à la suite de sa condamnation publique de la part d'un étudiant?
Oui, ben, il a accordé une entrevue hier au 99.5 à Montréal à Richard Martineau. Mais c'est un professeur qui a l'habitude de ces controverses-là. C'est quelqu'un qui tient à rétablir les faits. Puis en biologie, là, en passant, il y a une telle chose que des faits. Okay? Moi, j'étudie en sciences sociales. J'ai un peu moins de prétention quand je mets le chapeau de sociologue ou je mets le chapeau d'un historien parce que j'ai une maîtrise en histoire. Tout est relatif ou à peu près. Okay? À part quelques grandes dates qui sont coulées dans le béton. Mais en biologie, je dirais que tout l'appareil intellectuel est assez basé sur des faits. Donc, et le problème en passant, parce que tu fais bien de le souligner, Pascal, c'est un étudiant. On pourrait me dire, par exemple, bon, pourquoi t'en parles, Villemur? C'est rien qu'un étudiant. Mais cet étudiant-là a tout un pouvoir. C'est ça le problème. La nouvelle,
c'est
elle est
le
là.
C'est le réel problème.
C'est qu'un seul étudiant envoie un seul courriel plein de chantage, d'accord, où il fait valoir le risque pour les émotions des élèves qui se sentent ci dans telle circonstance, et là, on tire la plug.
On dirait un étudiant en droit qui voulait voir s'il était capable de plaider quelque chose. Là. Rendu là, je veux dire, ça, j'applaudirais. Bravo, t'as été capable de te rendre loin. Par contre, j'applaudis pas du tout à l'école qui est embarquée là-dedans.
Non, absolument. Mais c'est une habitude à l'Université d'Ottawa. On se rappelle quand même l'affaire Verouchka-Lieutenant Duval. C'était une chargée de cours qui avait utilisé le mot « nègre » dans un contexte académique. Mm-hmm. Elle avait été mise à la porte.
C'est vrai.
Et il avait fallu des années pour que des professeurs se réunissent et fassent publier un livre où ils prenaient sa défense. T'sais. Puis je ne reproche pas à ces professeurs-là d'avoir pris des années à le faire. Je dis juste que, sur le coup, ben, ça a été à peu près un malaise général. Donc, il y avait des gens qui étaient malaisés et il y avait eu le couperet qui était tombé. Cette professeure-là, à ma connaissance, elle n'a pas retrouvé de travail dans cette université-là. Donc, c'est une université qui ne s'améliore pas du tout. Là.
Rémi Villemur, chose certaine, et Pascal, je veux que tu l'entendes aussi. En arrivant à la maison tout à l'heure, je vais m'asseoir avec mon lapin, qui est masculin, et je vais lui demander s'il désire me parler de sa biologie.
Mais tu fais bien, Jean-François, parce que ton lapin, tu sais, c'est un être humain sensible qui a des émotions. Puis les lapins, on n'en parle pas suffisamment. D'ailleurs, je pense qu'on se reparle jeudi. Je pense qu'on devrait vraiment réserver une bonne partie de la chronique.
Ah, fallait qu'on te le dise, on n'a pas de temps jeudi. Mais c'est pas qu'on t'apprécie pas.
Bon,
on a des poubelles à sortir.
Non.
Une drôle de coïncidence, mais je suis assez naïf pour vous.
C'est pas vrai, Rémi Villemur, on va t'entendre jeudi aux alentours de 13h avec nous parce qu'on adore ta participation. On adore tes sujets, les auditeurs également. Je le rappelle, Rémi qui est avec nous les mardis et jeudis aux alentours de 13h dans l'émission d'En Jase. Et si vous allez dans le coin de Montréal, écoutez-le sur le 99.5 les lundis au jeudi de 18h à 19h et le samedi de 8h à 10h. Rémi, je te souhaite une excellente journée. On se reparle jeudi.
Bye-bye à vous deux.
Salut
mon ami. Pascal, faut absolument que je te fasse entendre quelque chose qui est arrivé hier dans la Ligue nationale de hockey. Écoute bien ça. Écoute. Goalie fight, Pascal. Sergei Bobrovski, le gardien de but des Panthers de la Floride, a traversé la patinoire pour aller se battre contre le gardien de but des Sharks de San Jose, qui était en train de bousculer un de ses joueurs, qui avait plaqué dans le dos le joueur des Sharks, Vincent Desharnais. On voit ça à peu près, je te dirais, aux 10 ans, et là, on a eu ça hier, une bataille entre deux gardiens de but. Ça va t'animer?
Tu m'as parlé d'une bataille avant que je parte en vacances. Là. Ça arrive pas aux 10 ans, cette histoire-là?
Non, mais une bataille de gardiens de but, ça arrive très, très, très
alors,
très,
on
très
a
rarement.
Des catégories là, de batailles.
Oui, exactement. C'est arrivé hier. Victoire des Sharks de San Jose, 4-1. Ça ne va pas bien pour les champions de la Coupe Stanley qui, à l'heure actuelle, sont exclus des séries éliminatoires. Je termine mon petit tour hockey avec toi, Pascal, pour te faire écouter quelque chose de bien plus beau. C'est une ovation. Et pourquoi cette ovation, Pascal? Parce que hier, c'était le retour à Chicago de Jonathan Toews. Et je dis Jonathan parce que il est né au Manitoba d'une mère francophone. Alors, il veut que les journalistes l'appellent Jonathan et non pas Jonathan. Et c'était son retour à Chicago hier parce que Jonathan Toews a été atteint de la COVID longue. Donc, il n'avait pas joué depuis la pandémie.
Il y a de la misère avec son souffle et tout.
Oui, exactement. Okay. Il n'avait pas joué depuis l'année 2022-2023. Alors, c'est son retour dans la Ligue nationale cette année. Il a décidé de le faire dans sa ville natale, c'est-à-dire Winnipeg. Et là, hier, c'était son grand retour à Chicago. Il a gagné 3 Coupes Stanley à titre de capitaine là-bas. Et Pascal, l'ovation qu'il a reçue, ça a duré un total de 4 minutes 45 secondes. Il est obligé de faire le tour de la glace 4 fois.
Voyons donc.
Ses coéquipiers le repoussaient tout le temps. Ils disaient « Retourne, retourne-y. » Il y avait énormément d'émotions. C'est un très beau moment, plein d'anciens joueurs
des Hawks. Vous en avez beaucoup cet an-ci. Avec... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très humain qui se passe dans le hockey.
Vraiment.
C'est peut-être parce que les Canadiens ne gagnent pas assez puis vous vous retroussez sur d'autres choses. Là.
Ben, en tout cas, j'espère que le Canadien va perdre ce soir contre le Wild du Minnesota, qui est une excellente formation de la Ligue nationale. Je le rappelle, 19h ce soir sur les ondes d'RDS avec
tu veux qu'ils gagnent, Pierre Wood
et Marc Denis. Bon, je sais pas, là. Me semble on est dû pour une petite défaite.
Défaite?
Ah oui, pour brasser la chose. Non, c'est pas vrai. Okay. J'ai dit que le Canadien a gagné 4-3 ce matin dans l'émission Marceau le matin. Pascal, t'aimes-tu ta langue française?
Oui, j'adore.
Moi aussi, j'adore ma langue française. Polémique, il y a trop d'anglais. Il y a trop de musique anglaise qui joue dans le vieux Québec. Alors,
ça, c'est un étudiant de l'Université d'Ottawa qui a remarqué ça? Ou...
Non, c'est pas un étudiant de l'Université d'Ottawa. C'est les résidents du vieux Québec et notamment le président du conseil de quartier du vieux Québec, Michel Massé. On va parler avec lui après la pause. Ça a été un gros débat. C'est disponible sur notre page YouTube dans le Pit Stop ce matin entre Denis Gravel, Yannick Marceau, mais surtout Max Larouche. Alors, on parle de ceci. Pourquoi faudrait avoir plus de musique francophone dans nos murs du Vieux-Québec? On s'entretient avec Michel Massé après cette courte pause à l'émission Nageurs sur Boulevard 102.1. 13h31 minutes de l'émission en jazz sur Boulevard 101 avec Jeff Fortin et Pascal CV. Météo, je vous le rappelle, journée très froide, moins 27 avec le refroidissement éolien, c'est moins 14 au thermomètre. Moins 9, faible neige intermittente pour mercredi, moins 4, il annonce de la neige pour jeudi. On ne parle pas encore de grande accumulation. On va suivre ceci pour vous. On en parlait avant la pause, Pascal. La langue française fait parler dans le vieux Québec. Les touristes qui s'y promènent présentement entendent énormément de chansons en anglais. Je le répète, c'est disponible sur la page YouTube. On a fait le débat dans le Pit Stop ce matin avec Denis Gravel. Denis qui était « Je veux pas de nouveau CRTC dans le vieux Québec ». Puis Max Larouche qui était « Hey, on est à Québec, on est dans notre capitale nationale. Il faut entendre de la musique française ». Et pour en savoir plus sur ce dossier-là, Pascal, tu nous as concocté une très belle entrevue.
Oui, bien, on va aller en jaser parce que effectivement, c'est drôle, hein? Des fois, des débats comme ceux-là enflamment le web, mais enflamment aussi notre société, malgré tout. Puis pour des raisons de travailler en amont sur quelque chose. Je pense qu'il y a des gens qui ne veulent pas que ça s'efface, ils veulent prendre soin du français. Pour en jaser, on a au bout du fil Michel Masse, qui est président du Comité citoyen du Vieux-Québec.
Monsieur Masse, merci beaucoup de participer à l'émission En jase sur Boulevard 102.1.
Merci, bonjour.
Monsieur Masse, quelle est votre opinion? Est-ce qu'il y a trop de musique anglophone dans les murs du Vieux-Québec à l'heure actuelle?
Effectivement, on en entend beaucoup, que ce soit dans les haut-parleurs des commerces ou même au niveau des amuseurs de rue. Donc, c'est un style de musique qu'on entend énormément dans le quartier.
Est-ce que, c'est quelque chose qui vous concernait avant que certaines personnes décident d'en faire un sujet? Je m'explique que j'ai beaucoup d'intérêt dans la préservation de la langue française, mes collègues aussi. La seule chose, c'est que, mettons, un amuseur de rue qui commence à faire une chanson populaire pour subvenir à ses besoins, puis la chanson est en anglais, on va pas commencer à réglementer le tout, non?
Non, on n'est pas des ayatollahs de la langue française.
Contente de vous entendre.
On veut juste simplement mettre en valeur le fait français à Québec. Nous sommes une ville reconnue par l'UNESCO pour étant le berceau de la francophonie en Amérique du Nord. C'est juste d'être conséquent avec cette reconnaissance et de mettre en valeur la musique francophone dans le Vieux-Québec. D'ailleurs, les touristes, quand ils viennent ici à Québec, ils viennent pour être en contact avec ce fait français-là qui est particulier ici en Amérique du Nord. Donc, c'est juste d'être fier de qui on est et de le mettre en valeur.
Comment doit-on faire pour augmenter justement la musique francophone dans les murs du Vieux-Québec? Est-ce que ça doit nécessairement passer par un règlement ou on doit commencer par de la sensibilisation?
c'est davantage la sensibilisation. D'ailleurs, l'an dernier, avec le Bureau des grands événements à Québec, qui s'occupe d'ailleurs de la gestion des amuseurs, des artistes de rue, il y a eu deux sites qui ont été identifiés comme étant réservés à la musique francophone. Donc, le site de la Place Royale et le Petit Champlain, qui sont deux endroits emblématiques, représentatifs de notre présence ici en Amérique du Nord et de notre histoire française en Amérique du Nord. Donc, à ces deux sites-là, l'été dernier, les amuseurs de rue étaient invités à chanter ou à jouer de la musique davantage en français dans ces deux sites-là qui sont connus, recherchés par les touristes et qui nous représentent très bien.
Alors, c'est pas mal là où on veut se diriger dans le sens où peut-être discuter avec les gens qui sont présents dans les rues, de demander un petit effort à ce niveau-là, de promouvoir notre belle ville au niveau touristique de cette manière-là, mais pas dans la réglementation, non?
Non, c'est pas une réglementation, c'est juste de sensibiliser les gens. D'ailleurs, on est en discussion encore avec les bureaux des grands événements. L'automne dernier, il y a eu une rencontre, d'ailleurs, avec les amuseurs de rue, avec les commerçants, avec les résidents.
Ils prennent ces rencontres-là de quelle manière?
Ah, c'était très bien accepté parce que, bon, oui, l'été dernier, quand ça s'est arrivé, ça, tout le monde a été un peu surpris. Pas nécessairement la société de la SDC du Vieux-Québec, parce que c'est un sujet avec lequel on a discuté avec eux depuis longtemps. Au niveau des amuseurs de rue, l'automne dernier, lorsqu'on a eu la rencontre, évidemment, on a échangé. On a échangé nos points de vue de part et d'autre pour essayer de se comprendre, de savoir qu'est-ce qu'on voulait. Et puis, il y avait une bonne acceptabilité à cet effet-là. Les amuseurs de rue aussi sont conscients qu'ils sont à Québec. Et puis, bon, qu'il y a peut-être un fort à faire à cet effet-là. Donc, il y a eu une bonne accès, une bonne ouverture, acceptabilité, mais c'est pas l'idée. L'idée n'est pas d'avoir un règlement et d'être très coercitif, mais d'être surtout au niveau de la sensibilisation et d'inciter les gens à davantage utiliser ou chanter la musique francophone.
Pour rappel, on parle avec Michel Masse, qui est président du conseil de quartier du Vieux-Québec. On parlait de la musique en français dans le Vieux-Québec, qui n'est pas présente à l'heure actuelle en grand nombre. Monsieur Masse, je vous amène sur un autre dossier. C'est le manque de citoyens dans le Vieux-Québec. Ça fait, là, de mémoire, depuis 2011 qu'on en parle et on n'arrive pas à augmenter le nombre de citoyens. Est-ce que vous avez une solution magique à nous proposer ce midi?
Non, j'ai pas de solution magique à vous proposer. Sauf que la ville fait beaucoup de travail, d'efforts, donc au cours des dernières années, justement la ville a adopté un plan d'action pour améliorer la qualité de vie dans le Vieux-Québec, avec l'objectif évidemment d'attirer de nouveaux résidents dans le quartier. Et à cet effet-là, ben évidemment, ça prend des logements qui soient abordables, qui soient accessibles à toutes les bourses pour différents types de personnes. Donc à cet effet-là, ben évidemment, la ville à ce moment-là a acquis des immeubles. Que ce soit l'école Saint-Ville-Gonzague, l'ancien foyer Nazareth, que ce soit l'édifice Artec sur la rue Saint-Jean, donc entre autres, pour justement les transformer éventuellement en logements abordables. Évidemment, ces projets-là, ça se fait pas demain matin, là, comme tel. C'est à venir, mais il y a déjà eu d'autres projets là au cours des dernières années où il y a des résidents qui se sont ajoutés dans le quartier. Que ce soit le projet de l'îlot McWilliam sur la rue Saint-Angèle dans le Vieux-Québec, que ce soit sur la rue Saint-Paul où il y a un nouvel édifice au coin de la rue Saint-Thomas qui a été construit, qui a amené de nouveaux résidents dans le Vieux-Québec. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se faire, évidemment, tranquillement. Mais c'est certain qu'on souhaiterait que ça aille un peu plus vite pour montrer que ce processus-là d'amener de nouveaux résidents est vraiment bien en marche.
Oui, mais ça, c'est, je pense, une préoccupation importante parce que juste les gens qui vont habiter dans le coin du Vieux-Québec en ce moment, au niveau du stationnement, c'est impossible. Donc, t'es pas capable d'avoir ton stationnement, t'es pas capable d'avoir un logement semi-abordable. Et c'est eux qui font vivre aussi le Vieux-Québec. Quand tu arrives en tant que touriste, tu veux voir des gens qui y vivent pour vrai, pas juste des Airbnb, etc. On a peut-être échappé un peu le dossier dans les dernières années. Est-ce qu'il va falloir le suivre de façon plus rigide?
Ben, ça n'a peut-être pas été une préoccupation primordiale, peut-être avant l'administration précédente, mais avec la nouvelle administration, donc qui ont fini leur premier mandat, donc ils ont pris à cœur cette revendication. Et c'est là-dessus qu'ils ont posé des gestes à cet effet-là. Et bon, on espère bien que ça va aboutir. Comme je disais tantôt, il y a déjà des projets qui ont donné de nouveaux résidents. Mm-hmm. Il y a des projets en cours. Et si tous les logements dans les édifices que j'ai mentionnés tantôt sont éventuellement faits, ben le 500 résidents devrait être atteint. Mais c'est certain qu'on voudrait avoir des nouveaux résidents plus rapidement. Parce que c'est important, comme vous le mentionnez, les touristes, quand ils viennent dans le Vieux-Québec, ce qui est particulier, c'est qu'ils viennent dans un quartier qui est habité. Et c'est ça qui fait la force qui fait la richesse aussi du Vieux-Québec, puis c'est un quartier habité. Ce n'est pas un décor, c'est qu'un milieu résidentiel avec du monde qui demeure dans le quartier.
Michel Masse est président du Conseil de quartier du Vieux-Québec. Merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui à l'émission On en jase. On continue à suivre de près ce qui se passe dans le Vieux-Québec et au plaisir de se reparler.
Parfait, merci beaucoup.
Merci. Au revoir, M. Masse. Donc, le Vieux-Québec qu'on doit justement augmenter le nombre d'habitants. Là, on l'a vu la semaine dernière avec le départ du Jean Coutu, justement. Comment là, les commerces de proximité quittent. Puis ça n'en prend pas juste pour les touristes, ça en prend justement pour attirer des résidents. Pascal, avant que tu partes en vacances, je ne sais pas si tu te rappelles, je t'avais parlé de l'aide alimentaire qui explosait au Cégep Garneau. Les étudiants qui ont de la misère à se nourrir. Eh bien, il y a un excellent dossier dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, sur les cégeps cette semaine. Mais nous aussi, on s'en fait un petit à Boulevard 101 et on va recevoir Marie-Pierre Aubert, qui est directrice adjointe du service psychosocial du cégep Garneau. Après la pause, on va parler avec elle justement de ces besoins-là qui sont criants. Et qu'est-ce qu'on fait au cégep Garneau pour tenter de répondre à la demande? Mais je vais te dire, bien franchement, on a bien de la misère à répondre à la demande.
On y arrive mal.
Non, exactement. Donc, Marie-Pierre Aubert s'installe avec nous en studio immédiatement. Après cette courte pause, merci d'être à l'écoute de On en jase sur Boulevard 101. 13h45, va suivre l'émission On en jase. Comme habituellement, c'est l'émission Gravel dans le retour avec Denis, Audrey et Véro. Manquez pas Mathias Turcotte qui va venir vous informer de ce qui se passe à l'Hôtel de Ville, c'est retour des conseils de ville. On est de retour des vacances de Noël, Pascal, chez nos politiciens municipaux. 18h, Isabelle Huot est avec Marceau dans Marceau le soir. Si vous voulez améliorer votre nutrition, ça va être une bonne émission pour vous, sans l'ombre d'un doute. Et demain matin, c'est Marceau le matin. Point de max à 10h. Puis on revient qu'on en jase à midi. Pascal, on en sait plus sur une dame qui était décédée sur son balcon dans une maison, dans une RPA à Lévis.
Exact. Je vous rappelle cette année qui avait été retrouvée inerte. En fait, c'est une mort qui était évitable et ça a été tranché par le coroner.
Ouf.
On vient d'avoir de l'info sur ce décès de cette dame de 79 ans. Ça aurait pu être évité. Et ce qu'on dit, c'est que ça aurait pu être évité si les caméras de sécurité avaient été surveillées. Il y avait des caméras de sécurité, mais personne pour surveiller ce qui s'y passait. Donc, dispositif d'alerte sur la porte qui avait sonné. Puis le personnel de nuit avait fait les tournées. On avait fait, somme toute, ce qu'on a habituellement l'habitude de faire. Mais Réjeanne Jean, elle, était depuis quelques mois à la résidence Saint-Antoine à Lévis et elle a été retrouvée le matin du 1er mars 2024, inerte sur un balcon. Mars, hein? C'est pas chaud, on s'entend.
Non, c'est pas chaud.
Donc, elle avait été reconduite à sa chambre, puis elle avait proposé au bénéficiaire qui avait fait le travail, mais qu'il avait trouvé errante dans le corridor. Donc, on l'a adossée à la porte qui donne accès au balcon. Et ça, c'était le 29 février. Elle en est ressortie, mais sans chaussures, puis avec une couverture sur les épaules. Puis c'est là qu'elle s'est dirigée vers la porte du balcon du deuxième étage. Puis ses déplacements sont tous captés là, par caméra de surveillance. Alors, si quelqu'un avait été devant les caméras, on aurait vu son errance, on aurait vu s'était promené. On dit que le préposé n'avait pas eu un suivi de formation spécifique puis ne savait pas comment compléter les rapports d'incidents ou d'accidents, ni comment consulter les dossiers des résidents. Écoute, on va en parler peut-être plus demain. Véro va faire le tour de ça dans l'émission du retour, assurément. Mais c'est problématique puis c'est super inquiétant, là, ce suivi de coroner-là qu'on a dans l'actualité aujourd'hui.
Dossier du massif qui est fermé à l'heure actuelle avec une grève des employés, mais il y aurait une mince lueur d'espoir.
Hein, on a juste un petit clin d'œil qui est entré dans notre courriel pendant le bloc publicitaire. Déclaration de Claude Choquette. C'est lui le président du groupe Le Massif. Et c'est oui, concernant le conflit de travail là, en cours au Massif de Charlevoix. Je vous lis dans les mots ce qu'on a reçu. C'est un courriel qui est de même pas une demi-page. Les mots sont... À la demande du conciliateur en chef et du conciliateur, les parties ont été conviées à une rencontre. L'urgence de parvenir à une issue d'ici la fin de la semaine demeure entière. C'est peut-être la lueur dans ce
parc. Oui, exactement. On espère que ça va se régler là-bas parce que la communauté est vraiment mise à mal, la communauté économique. Et d'ailleurs, on a fait une entrevue ce matin dans Marceau le matin avec Serge Bilodeau, le maire de Petite-Rivière. Ça se retrouve sur le blvd.fm. On continue notre tournée de ce qui se passe dans les cégeps et on va parler immédiatement avec Marie-Pierre Aubert, qui est directrice adjointe du service psychosocial du cégep Garneau. On va parler des besoins alimentaires de nos jeunes qui fréquentent les cégeps. Madame Aubert, merci d'être présente en onde avec nous.
Ça fait plaisir, bonjour.
Madame Aubert, c'est une augmentation drastique, si je ne m'abuse, dans les dernières années, là, des besoins d'aide alimentaire chez nos étudiants.
Oui, en fait, c'est ça. On a toujours eu des étudiants qui avaient besoin d'aide alimentaire, mais dans les dernières années, je vous dirais, en lien avec le hausse du coût de la vie, il y a des augmentations assez importantes là, du nombre d'étudiants, puis ceux qui avaient déjà des difficultés financières, je vous dirais que c'est encore plus marqué et plus important là, comme difficulté.
Il y a des questions qui viennent des fois au 88-971-101 dans notre groupe chat, puis il y a des gens qui disent, est-ce qu'on est moins tolérant aux risques financiers ou aux creux financiers maintenant? Est-ce qu'on voit des gens faire des demandes qui font partie de cette strate, qui n'auraient pas fait de demande auparavant, ou c'est vraiment une ère économique particulière?
Bien, je vous dirais que c'est plus des étudiants qui en ont réellement besoin. Là, tu sais, je peux vous donner un exemple. Cette semaine, on a un étudiant qui ne pouvait pas se présenter à sa première semaine de cours parce qu'il n'a pas les moyens de se payer sa passe de bus de janvier. Donc, il a envisagé de ne pas se présenter à ses deux premières semaines de cours pour avoir seulement la passe de février. Donc, pour nous, c'est vraiment un besoin criant là, quand tu n'as pas les moyens de payer ta passe de bus pour venir au cégep. Oui. Donc, c'est là où est-ce qu'on se doit d'intervenir. Puis non, je ne pense pas que c'est qu'ils viennent chercher plus d'aide nécessairement, mais c'est vraiment des personnes qui en ont besoin.
Vous êtes passé de 1 050 $ en aide alimentaire d'urgence en 2021 à 20 000 $ l'an passé. Et là, vous croyez atteindre jusqu'à 35 000 $ cette année. Il y a déjà 75% du budget qui ont été écoulés. Fait que ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui se lèvent, et puis là, je vais le dire comme ça, parce que les payes souvent sont le jeudi, là, qui vont se lever un mardi matin. Il n'y a plus rien dans le frigo, il n'y a plus rien dans le garde-manger. Ils sont en mode survie.
Oui, exactement. Puis on a aussi des parents aux études hein, qui ont à charge des enfants. Donc,
c'est vrai, j'oubliais ce point-là, donc, qui est très important. Là,
parfois, soit ils n'ont pas seulement eux à nourrir, mais aussi les enfants. Donc, c'est le genre de personnes là, qu'on va aider, mais des étudiants aussi seuls qui ne sont plus sous la responsabilité de leurs parents puis qui se retrouvent à devoir payer un loyer qui, on s'entend, les loyers autour du cégep là, tournent autour de 2 000 $ par mois. Là. Donc, ils doivent étudier à temps plein. Effectivement, ça l'a vraiment augmenté. Donc, étudier à temps plein, travailler un peu, mais à un salaire souvent moindre et devoir payer les factures qui vont avec ça. Là, souvent, quand il vient le temps de faire l'épicerie, bien, ils n'ont plus les moyens. Là.
Puis là, je sais qu'il y a toujours ce fameux préjugé-là de dire, ben voyons donc, ils l'ont bu d'un bar, mais je pense pas vraiment que c'est les gens que vous aidez, ça.
Non, effectivement. Puis on a assurément une clientèle d'étudiants qui viennent de parents aisés qui habitent encore chez les parents puis qui ne demandent pas d'aide alimentaire. On a cette clientèle-là puis c'est bien correct s'ils vont fêter la fin de semaine, mais les gens qu'on aide, c'est pas cette clientèle-là puis c'est vraiment des étudiants qui en ont besoin. On peut le voir, c'est perceptible. Venir demander de l'aide, c'est pas quelque chose de facile pour nos étudiants, puis ça prend du courage. Donc, quand ils le font, c'est qu'ils en ont réellement besoin.
C'est fascinant de voir ça parce qu'en plus, on a des textos, on a parlé d'études, là, des gens qui voudraient retourner aux études pour s'offrir une meilleure qualité de vie dans certaines choses, puis ils envisagent même pas de le faire. C'est un rêve, un fantasme, parce que c'est trop cher. Fait qu'on voit ces gens-là qui essaient de s'éduquer puis qui n'arrivent pas à se nourrir. En contrepartie, comment vous réussissez à travers les banques alimentaires et tout ça d'aider ces jeunes-là?
Oui, bien, on a varié nos offres d'aide dans les dernières années. Avant, on faisait beaucoup affaire avec la Barat principalement. Donc, on référait les étudiants vers des offres alimentaires moins dispendieuses. Mais maintenant, on les offre à l'intérieur du cégep. Donc, on a des mets préparés de la Barat. On va faire préparer des boîtes. On a 2 frigos partage maintenant où est-ce que les gens peuvent déposer de la nourriture et en prendre. Mais on fait des épiceries dans ces frigos partage-là pour que les étudiants puissent venir chercher des aliments. En collaboration avec l'association étudiante puis la fondation à ce niveau-là.
OK.
On fait aussi des cuisines collectives. Les cuisines
collectives... fait longtemps que ça existe, mais c'était pas fréquenté, mis à part, en tout cas moi, au cégep, que par les étudiants étrangers. Ça veut dire que là, ça a changé beaucoup, le visage.
Ah oui, vraiment. Bien, on en a encore là, des étudiants étrangers qui fréquentent nos cuisines collectives, mais c'est vraiment pour apprendre à bien se nourrir à moindre coût. Puis la nourriture qui est cuisinée, mais les étudiants peuvent repartir avec une partie, puis on met le reste dans le frigo partage. Donc, ça sert à plusieurs étudiants. Donc, on varie vraiment. On donne des cartes d'épicerie parfois à des étudiants qui, on sait, ne pourront pas se nourrir dans la semaine à venir. Puis on essaie d'innover là, dans des façons de soutenir nos étudiants. Dernièrement, la Fondation nous a parlé qu'il allait faire en fait session... une promotion qui s'appelle « En examen, le ventre plein ». Donc, ils vont donner des pommes et des muffins en début de journée ou pendant les journées d'examen pour s'assurer que les étudiants ont le ventre plein pour faire leurs examens.
On parlait tout à l'heure de parents, justement, à l'école et de retour à l'école. Mais on a un excellent texto qui est rentré en disant « Grosse coupure en septembre sur les prêts et bourses également. Mon conjoint est parti de 1200 $ à 600 $ par mois cet automne. » Donc, c'est une coupure de 50
%. Avec le coût de la vie qui est juste en expansion.
Donc, c'est clair que ça paraît. J'aime bien la fondation, être en examen, le ventre plein. Est-ce qu'on voit justement un impact sur les résultats scolaires des étudiants?
Assurément. En fait, on a certains étudiants qui vont même opter pour aller travailler plutôt que se présenter à leur cours parce qu'ils manquent d'argent. Puis, bien, c'est sûr que si on n'a pas mangé, on a des inquiétudes, on a de l'anxiété face à notre situation financière, on n'est pas disposé à l'apprentissage. Donc, le Cégep a bien compris ça, puis c'est pour ça qu'on a augmenté les sommes aussi, malgré les coupures budgétaires, parce que c'est sûr que si on ne répond pas à nos besoins de base, on n'est pas disposé aux apprentissages.
Oui, mais c'est ça, puis ce serait un peu tannant d'investir autant d'argent, de vouloir investir autant de temps aussi, puis pas être capable de ouais, réussir vraiment. Tes cours parce que tu as d'autres manques, là, quelque part.
En terminant rapidement, est-ce que vous avez des besoins?
Oui, assurément. En fait, il y a encore des étudiants qui ont des besoins. Donc, constamment, on est à la recherche de financement. Donc, la Fondation nous aide énormément par rapport à ça. Ceux qui veulent contribuer peuvent d'ailleurs aller sur le site de la Fondation du Cégep Garneau pour pouvoir donner des dons qui seront remis pour l'aide alimentaire.
Marie-Pierre Aubert est directrice adjointe du service psychosocial du Cégep Garneau. On parlait des besoins en aide alimentaire des étudiants. Continuez votre excellent travail, Mme Aubert. Vous faites vraiment une différence dans la vie de ces étudiants-là. Puis, s'il y a des étudiants, écoute, n'ayez pas honte, allez voir votre département de service psychosocial. Ils vont vous aider. Il n'y a pas de honte là-dedans à passer une période un petit peu plus difficile. Oui. Surtout quand on est étudiant puis que les loyers sont rendus à 2000$, Pascal.
Et c'est épouvantable.
Ça n'a pas de sens, hein?
J'avoue que tu peux être 3-4, mais encore là, 2000$, ça ne doit pas être un 5,5$.
Non, c'est ça. Donc, c'est très difficile pour nos étudiants à l'heure actuelle. On va leur souhaiter du mieux. Pascal, c'est déjà la fin de cette émission dans Jazz.
La bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain midi.
On se retrouve demain à midi. Le retour de Gravel suit à l'instant même vers 15h15. Le collègue Mathias Turcotte sera là pour parler de ce qui se trame à l'Hôtel de Ville à l'heure actuelle. Et nous, on se revoit demain. On va avoir justement le caucus avec Antonine Iaccarini et notre chroniqueur politique, Alicia Despins, qui va venir nous parler de ce premier conseil municipal. Elle a été en politique municipale durant 8 ans. C'est très pertinent quand elle est avec nous. Je te souhaite une belle après-midi, une belle soirée, Pascal Cévé.
À toi aussi, c'est tout ce que tu mérites.
Merci beaucoup. Restez à l'écoute. C'est le retour de Gravel qui suit. Merci d'être à l'écoute de Boulevard 101. Bye-bye, guys.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase.
Renault Assistance accompagne...
Carole, désolée pour le bruit, hein. Je rénove ma cuisine.
Toi, ça?
Ben, pas moi, là. C'est l'entrepreneur vérifié qui m'a été recommandé par Renault Assistance. On réglait justement des petits détails, là. Ben, on. C'est plus Mathieu, mon conseiller Renault Assistance.
Donc, c'est pas vraiment toi qui gères ça?
Ben non. Moi, je relaxe.
Renault Assistance par Desjardins. Rénové, bien accompagné.
RenaultAssistance.ca.
C'est la vente annuelle Matelas Dauphin. La vente qui vous offre des prix exceptionnels, plus taxes payées sur tous les matelas. Économisez des centaines de dollars, plus taxes payées sur tous les formats de matelas ergopédiques à ressort en sachet, garantie 20 ans. Dont le format double, en spécial à 999 $ taxes payées. De plus, recevez 100 $ en carte cadeau. Ces offres et beaucoup plus pendant la grande vente annuelle dans tous les matelas Dauphin. Matelas Dauphin, la force du fabricant.
Chez Volkswagen Saint-Nicolas, obtenez le Taos 2026 à un taux de location avantageux à partir de 2,99%. Et si vous êtes déjà propriétaire d'un Volkswagen, profitez d'une réduction de taux et recevez 2 ans d'entretien gratuit. On vous attend.